Sinon, parfois, j'enregistre les calls.
Pour réécouter. Le problème, c'est qu'il faut avoir le temps de réécouter.
C'est ça. Mais moi-même, je rigolais toujours de voilà, tu écoutes, tu enregistres pourquoi? Tu vas encore réécouter. Mais il y a des trucs, parfois, je ne fais jamais ça pour des trucs internes. Mm-hmm. Mais externes sur des gros briefs.
Ah!
Il y a parfois des subtilités. Ou bien quand on te fait un débrief. Mm-hmm. Et parfois, il faut réécouter, tu vois.
Bah, écoute, en plus, le truc, c'est qu'il est bien avec l'IA de Zoom maintenant, tu as les résumés. Moi, ce que j'aime bien, du coup, tu peux retrouver exactement à quel moment chaque chose est dit.
Ouais.
Donc, tu peux retrouver, il te donne le chronogramme et tu sais à quel moment chaque personne a dit quoi.
Mais j'ai vu dans le truc même que Cécile nous a partagé là, du conseil sur le Zoom, quand elle parle, t'as l'écrit, quoi.
Ah bon? J'ai pas vu ça.
Ah, maintenant, ils font des trucs. Par contre, je vois toutes les équipes qui utilisent des robots dans les réunions, là. Mm-hmm. Mais, je doute qu'ils utilisent, enfin, je sais pas s'ils réutilisent les résumés que
Moi, en tout cas, j'utilise pour nos réunions de board, les réunions où il y a des décisions.
Et donc, tu prends ça, tu retournes. Quand tu lis ça.
Mm-hmm. Après, ça m'aide à faire le compte rendu déjà.
D'accord.
Hein? Enfin, compte rendu déjà de première base. Et ensuite, des fois, j'ai besoin de me souvenir exactement qu'est-ce qu'on avait donné comme date sur telle deadline ou quelle date on avait dit vraiment qu'on allait revenir vers eux pour envoyer un document.
L'IA résume.
Et l'IA peut te dire, voilà, les documents envoyés.
Et Firefly, ça arrive parfois de pas être à une réunion et d'aller lire un stère généré par l'IA.
C'est arrivé que 2-3 fois, c'est rare. C'est les réunions genre avec exemple, les gros partenaires comme DHL, j'ai pas pu être là. Je reviens et si, ça c'est si jamais il y a quelqu'un à la réunion qui a dit quelque chose où mes équipes sont pas certaines à 100%. Ça arrive des fois, quelqu'un dit, ah, il a dit ça, et l'autre dit, non, il a pas exactement dit ça. Je dis, comment, il a dit quoi exactement?
Ah, d'accord.
Et là, ça peut arriver que je retourne.
Donc, par défaut, tout est enregistré maintenant.
Chez nous, ouais. Enfin, je demande à tous mes managers ont un Firefly AI.
Ouais.
C'est un abonnement annuel. Mm-hmm. Et donc, du coup, tout leur meeting, c'est bon?
Attends, Fabrice, tu peux me passer mon Samsung?
Ouais. Tous leurs meetings sont enregistrés dans Firefly AI. Donc, en fait, ils ont pas à réfléchir.
L'iPhone aussi, s'il te plaît.
Ouais. Ouais, on est bon?
Vous nous dites, hein? 3, 2, 1.
3, 2, 1.
Action. Shalom.
Salam. Salut à tous.
Salut à tous.
Voilà. Le comeback. On refait des petits épisodes à deux. C'est important.
À l'ancienne. En plus, c'est un épisode bien technique.
Ah, écoute, en plus, on allait chercher qu'est-ce qui restait qu'on avait promis, qu'on n'a pas encore délivré.
Et ça, c'est une promesse qu'on avait faite très tôt.
Ouais.
C'était de faire un épisode sur le prix.
Ouais. Que beaucoup de gens voient comme le nerf de la guerre. Quand on dit tu n'es pas la cible, qui est la cible, comment on fixe le prix, est-ce qu'on est cher, trop cher, pas assez cher.
Et tu as aussi les cas où les personnes sont dans des situations où ils vendent beaucoup, tout se passe bien.
Mais il n'y a pas d'argent.
Voilà. C'est Jenny qui nous avait dit ça.
Ça avait dit ça, oui, non, ça arrive.
Tout le monde disait que c'est super bon, je commande.
Bon,
et quand elle faisait le bilan,
elle s'en sort pas. Et c'est là où du prix, tu glisses lentement vers la profitabilité, vers la rentabilité. Mais oui, clairement, c'est un des éléments clés, je pense, en tant qu'entrepreneur. Et moi, je pense que c'est intéressant, c'est que même quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, ça peut avoir de la valeur. Parce que normalement, dans ta société, votre positionnement prix dit aussi votre positionnement marché. Donc, un employé normalement devrait, bon, pas que les marketeurs d'ailleurs, devrait avoir une notion de qu'est-ce qui explique le positionnement prix de notre boîte et qu'est-ce que ça reflète.
Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que je ne pense pas que les employés se posent ce genre de questions. C'est-à-dire que ça demande de la part des dirigeants, des managers de manière consciente pousser une culture business auprès des employés.
C'est pour ça que ce podcast existe. Hein. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que malheureusement, tous vos managers n'auront pas ce temps, cette énergie de vous culture business. Mais c'est un outil, je pense, qu'il faut que ceux qui nous écoutent, qui sont pas entrepreneurs, devraient se poser comme question. Parce que pour moi, c'est un des principaux outils, ta culture business, pour croître dans une entreprise. Si tu comprends mieux que les autres autour de toi, quelle est la stratégie de ta boîte et surtout, qu'est-ce que la boîte veut et qu'est-ce qu'elle ne veut pas comme type de client, tout va changer.
Ouais, c'est
tu sais à qui te comparer, à qui ne pas te comparer. Parce que le prix dit ça aussi. Mm-hmm. Parce que même dans une boîte, par exemple, oui, ton service client, tu vas le comparer à quel service client? Le service client d'Apple n'est pas le service client, je ne sais pas moi, de le restaurant du quartier. Mais les gens ne se posent pas ces questions.
Mais c'est marrant, je ne sais pas si tu t'es déjà fait cette réflexion, mais en t'entendant, je l'ai fait et je me rends compte que je vais parler de sujets plus stratégiques dans la boîte
ouais.
plus facilement aux gens qui m'ont déjà convaincu, avoir compris
un petit peu
les enjeux de prix.
Ah, et c'est l'un des, oui, c'est ouais, un des endroits où, de oui, comme tu as dit, t'as...
plus tu comprends notre stratégie de pricing,
ouais.
plus je vais te parler en fait de sujets stratégiques.
Ben oui, c'est évident parce qu'en fait, c'est l'un des drivers qui est de ceux qui sont dans la boîte, c'est des fois la contrainte et des fois leur levier. Mais si tu ne le maîtrises pas, du coup, c'est évident qu'en tant que toi supérieur, moi, je me souviens même quand j'étais chez Alstom, il y a longtemps, quand j'étais auditeur, on n'avait pas dans un groupe international comme Alstom les mêmes pricing selon les pays, par exemple.
Oui, bah oui.
Et tu vois, c'est bête, hein, mais du coup, ça faisait que quand tu étais au siège, avoir une capacité à comprendre la stratégie pricing, par exemple, du Middle East, te positionner mieux pour pouvoir apprécier si on était vraiment bien. Par exemple, sur l'engineering, dans cette zone-là. Parce qu'on se dit, mais attends, nos compétiteurs, ils engineerent pas au Middle East, ils engineerent en Chine.
Ouais.
On est plus cher, mais qu'est-ce que les clients du Middle East cherchent? Parce qu'eux, par exemple, en énergie, ils ont énormément de pétrole. Mais du coup, des fois, ils veulent des trucs plus innovants. Ils s'en foutent de trucs basiques. Donc, tu comprends en fait la psychologie d'un client derrière le prix de la boîte.
Exactement, exactement.
Donc, c'est un peu comme connaître son client, quoi. Pour moi, tu connais ton client.
Non, c'est vrai. Ce que tu dis sur les pays, c'est vrai. Nous, on a... pays tellement différents, tu vois, la Guinée, la RDC, la Côte d'Ivoire, c'est pas du tout la même psychologie.
Ah, sérieux?
Mais paradoxalement, en termes de coûts, de ressources, les gens seraient tentés de penser, oui, tu vas facturer moins cher dans tel pays, mais en même temps, la ressource va te coûter moins cher. Mais c'est pas vrai, en fait. Parce que moins tu as de ressources, plus les ressources très bonnes que nous recherchons
coûtent cher.
Mais bon, nous on avait prévu de structurer l'épisode d'une manière précise, peut-être commencer de manière globale sur notre rapport au prix, ce qu'on comprend de la définition du prix, être un tout petit peu théorique, mais après rapidement essayer de partager nos expériences. Là, il est dans forcément des startups, mais également tous les vendeurs qu'il a pu côtoyer, avec qui il a eu de longues discussions sur leur tarif de prix. Et moi, partager mon expérience sur toutes les stratégies de prix que j'ai pu tenter.
Influencing,
agence. Voilà. Donc, restez jusqu'au bout parce qu'on espère vraiment que ça va vous permettre, quel que soit votre domaine, même s'il n'est pas exactement équivalent à celui qu'on va évoquer, qu'il puisse
vous
servir. Et si on a oublié des choses, il y a toujours les commentaires, quoi.
Exactement. Et puisque surtout, on va aussi essayer de couvrir, je pense, le pricing à différentes époques de la vie entrepreneuriale.
C'est vrai.
Et c'est un peu pareil, de la même manière que je pense que c'est un outil important pour un salarié, l'entrepreneur doit comprendre aussi que son prix va changer et de ne pas être émotionnellement attaché à des prix. Ça peut arriver.
C'est
ça. Il faut que tu saches qu'à un moment, quand tu es tout seul, c'est pas le même prix que quand tu as une équipe, c'est pas le même prix que quand tu as maintenant 20, 30, 40.
Mais c'est vrai que dans la vie d'un entrepreneur, changer son prix, c'est un truc en haut comme en bas.
Non, non, quel que soit le changement, oui.
Il a l'impression que tout le monde l'observe.
Exactement, que tout le monde connaît ses prix exactement au détail. Non, mais c'est un vrai sujet. Et je pense qu'on en parlera, c'est émotionnel, hein, le prix. C'est quelque chose qui est... C'est pour ça que ça se rapproche de la psychologie plus le fixage de prix. C'est, moi, j'avais même pris un coach avec Endeavor en pricing. Spécialiste. Et qui m'avait dit que le pricing est un art. Il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science du pricing. Il dit qu'il n'y a pas de... méthodo de calcul de pricing. Les experts vont me dire, oui, on peut calculer l'élasticité, blablabla. Il y a plein de choses.
Oui, on a vu ça en cours.
Parce que en définition, pour rentrer dans les définitions et on rentre dedans, normalement, le pricing, les gens basiques diront, ah, c'est le prix auquel tu vends tes services.
Exactement. Où ça, c'est vraiment, vraiment basique.
La base.
Oui, c'est ce qui est affiché.
C'est ce que le peuple dirait.
C'est ce qui est affiché.
Ouais. Mais moi, ce que j'avais retenu, qui m'avait beaucoup intéressé avec lui, il me disait qu'en fait, non, le prix... c'est la façon dont tu présentes et tu identifies les gens qui ont besoin de tes services. C'est l'outil de présentation et d'identification. Et une fois que la connexion est faite, le pricing est aussi l'outil qui permet de... Alors, comment il dit? Lui dit valoriser la relation en anglais, mais je ne sais pas si ça se dit vraiment en français. Ça veut dire de créer quelque chose pour que... Parce qu'en fait, une autre chose que lui dit qui est vrai, c'est que tu peux changer le pricing à une même personne au cours de votre relation.
D'accord.
Donc, c'est un peu comme si, c'est difficile à imaginer dans beaucoup de relations personnelles, mais c'est un peu comme si chaque fois, vous avez une relation de 5 ans, mais au bout de 5 ans, peut-être que les deux ont changé.
Bien
peut-être
sûr.
Que tes priorités ont changé, peut-être que c'est plus ton type de client. Peut-être que lui, ses budgets ont changé.
Oui, mais c'est ce que tu disais. C'est dans l'évolution de boîte, les pricing changent. Mais pour revenir sur la définition, parce que tout à l'heure, tu as dit forcément, on va parler de profitabilité. C'est vrai que moi, je dirais que même dans la définition de base, la notion de profitabilité existe pour moi.
Tu penses que c'est très important pour définir un prix, profitabilité, c'est vrai.
Oui, parce que de la profitabilité va définir ta stratégie. Tu vois, quand tu fais une promo, c'est une stratégie basée sur ta profitabilité. Il y a des gens qui vendent à perte pendant un moment. Il y a des gens qui vendent plus cher pour attirer un certain type de personnes. Mais la profitabilité, en fait, tu dois te poser la question. Pourquoi ? Parce que tu dois savoir si tu es capable d'assumer ce que tu présentes. Donc, le prix égale donc, le coût du service ou du produit que vous proposez, plus la marge que vous voulez faire. Et donc, de ça, donc, cette marge, c'est votre... Vous devez après enlever tellement de choses pour arriver au profit qu'il y a des calculs. Il y a l'État,
Il y a les impôts et tout. Mais je rajouterais, au-delà des éléments techniques, il y a une dernière variable. Donc, comme tu disais, ta coût, marge. Moi, je rajoute dans ce que lui disait un élément important, c'est aussi le temps.
C'est-à-dire ?
Normalement, quand tu... Un exemple simple. Un prix, normalement, doit avoir une durée. On ne devrait pas dire c'est mon prix et c'est fini. On devrait dire c'est mon prix pour cette année. C'est mon prix pour jusqu'à ce que je délivre tel service. C'est mon prix.
Alors là, c'est là où il y a... Mais je pense que dans le sujet là, on va beaucoup parler de théorie et pratique.
Exactement.
Tu vois, non ? Ça, c'est l'idéal.
Exactement.
Mais c'est vrai que la problématique que tu vas avoir, c'est que sur certains secteurs, quand le client... est entré par un prix
très dur de le sortir.
Ça, c'est
vrai. Et ça, c'est le gros point.
Que même si tu l'as prévenu.
Non, mais c'est ça. Mais ce que j'adore, c'est que, tu vois, le prix, c'est un peu comme, tu sais, la première impression que tu fais aux gens. Tu sais, c'est difficile à changer après. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens se stressent sur leur prix. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un autre secret que je peux donner qui est très pratique, bon, en tout cas en B2C, mais je pense qu'en B2B, c'est valable, c'est que si tu te dis ce coût et cette marge sont valables jusqu'à, par exemple, allez, on va dire, jusqu'à ce que je sois profitable. Ou jusqu'à ce que j'atteigne tel montant de chiffre d'affaires. Ça t'oblige, toi aussi, à arriver à cette date ou à ce palier. Normalement, regarde si les coûts sont toujours les mêmes, parce que des fois, ils ont changé. Et regarde si la marge vaut toujours le coût. Parce que des fois, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, un truc que moi, je dis souvent, c'est que dans certains marchés, moi, il y a des marchés, par exemple, quand nous, on a commencé le service de shipping, on perdait de l'argent sur chaque label que les vendeurs achetaient. Donc, on a pricé en dessous de nos coûts.
Mais tu le savais ou tu l'as découvert?
Non, je le savais.
OK.
C'est-à-dire que quand on a commencé, on savait comment DHL nous facturait un label. Mais le pouvoir du pricing, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on a pris le pricing en se disant c'est l'outil pour amener les gens à utiliser notre service, pas juste le côté profitabilité. Et je savais que, par exemple, en Côte d'Ivoire comme au Nigeria, pour que les gens se jettent sur une expédition à moins de 2 kilos de DHL, il fallait qu'elle soit à moins de 10 000 francs CFA.
D'accord, mais moi, juste pour préciser, quand je te disais que je lis ça viscéralement à la profitabilité, ce n'était pas dans le sens où tu dois
à chaque prix
être profitable.
Ah, tu vois, donc
je dis, est-ce que tu es capable d'assumer ce que tu proposes? Par exemple, toi, quand tu dis que ce n'était pas la profitabilité, tu vois,
l'objectif,
l'objectif c'est parce que tu peux te le permettre.
Pendant un moment.
Ouais, pendant
c'est ça le gros.
Et c'est une stratégie.
Exactement.
C'est-à-dire que mon objectif ne sera pas la profitabilité. Mais là où je veux vraiment faire un point important, c'est que si tu es dans une optique de profitabilité, tu vois, ça doit être la première chose que tu analyses, tu vois.
Ah oui, c'est sûr.
Si on entend tellement de choses sur... je vais diminuer. Au début, je vais faire comme ça. Je vais m'aligner sur le voisin, etc.
Ah, c'est vrai que les gens, au début, construisent leur prix
comme
par
comparaison.
Comme
on est sur les trucs de base.
Oui,
je veux
c'est
vraiment,
vrai.
En fait, que la base, c'est ça. Et que les gens qui ne s'alignent pas sur la profitabilité, ce n'est pas une règle, c'est par stratégie.
D'accord.
Général,
et du coup, tu as raison. Là où tu as raison, c'est que si tu le fais, c'est par moment. Même ce que moi, j'ai dit, c'est pour ça que j'insistais sur le timing. Tu ne peux pas pricer éternellement juste pour acquérir des gens, par exemple. Tu ne fais pas pricer éternellement juste parce que tes compétiteurs sont à ce prix-là.
Voilà, ouais, c'est ça.
Et c'est là où tu as super raison, parce que c'est par défaut, quand tu commences d'ailleurs entrepreneuriat, les gens commencent à pricer en général par comparaison et ils se mettent moins cher.
C'est ça. Et c'est pour ça que tu disais un art, j'aime bien cette expression, c'est pas une discipline, c'est un art. Ouais. Parce qu'une fois qu'on a dit prix plus coût plus marge, tu te rends compte, plus tu avances dans ton aventure entrepreneuriale, qu'il y a effectivement, il y a quand même le concurrent, il y a le marché, il y a peut-être tes coûts qui augmentent, il y a le temps qui passe, donc il y a l'inflation. Ouais. Et en fait, il y a plein de choses. En ce moment, moi, je suis dans de grosses réflexions, surtout avec l'inflation qui est en Côte d'Ivoire.
Ouais.
Les clients nous challengent beaucoup sur la perception de cherté.
Perception de cherté, intéressant.
C'est-à-dire que, étant donné que la région subit l'inflation, les personnes vont faire leurs courses, achètent leurs services, leurs produits, à leur occupation, mais se rendent compte qu'ils dépensent plus.
Plus, oui.
Parce que les prix, les éléments sont plus chers.
Ouais.
Et du coup, ils blâment différentes entreprises.
Oui, forcément. Voilà. Parce que fois, c'est le distributeur qui va...
les connus en disant, vous pourrez... Et ils s'attendent à ce que les plus grandes entreprises fassent un effort, tu vois.
Ah bon?
Oui, Bref.
J'adore. Genre, quand il y a de l'inflation, c'est que les clients
peuvent... Tu sais, les associations de consommateurs, c'est aussi ça.
C'est leur travail.
En gros, c'est de protéger... C'est-à-dire que le consommateur subit l'inflation.
Ouais, mais pas...
Ils veulent que les gens fassent quelque chose pour eux. Bien sûr, il y en a qui vont aller voir l'État.
Bien sûr.
Pour les subventions ou autre. Ah, et puis, tu vas aussi t'attaquer au secteur privé en disant, les gars,
faites attention.
Faites quelque chose aussi
pour
nous.
Oui, oui, c'est vrai parce que... Ouais. Même en tant qu'entrepreneur, tu peux être tenté, quand tes coûts augmentent, d'augmenter tes prix sans faire attention. Surtout quand tu as un minimum de pouvoir, en tout cas un minimum de contrôle du marché. C'est vrai qu'il y a besoin d'un contre-pouvoir, parce que je crois que beaucoup, la distribution souffre beaucoup de ça. On leur dit souvent, vous augmentez les prix, vous n'arrêtez pas de écraser les agriculteurs ou les petits.
Oui, ils ont cette réputation.
Et eux, je pense, c'est ceux qui se font le plus.
J'étais au master en achat,
en plus, toi, tu connais cette époque.
Le secteur, la grande distribution, il disait, les gars, si vous allez travailler en distribution, sachez que votre métier, quand vous arriverez à l'entreprise, on va vous donner une batte de baseball.
Pour frapper les gens.
Frapper les fournisseurs. 10 minutes. C'est que ça.
Non, mais c'est un truc
10 minutes, on a besoin de faire du profit. Ouais. Bon, sur les denrées de première nécessité, malheureusement, c'est un peu ce jeu.
Mais c'est un problème de pricing,
Et là où je te rejoins sur l'art, c'est que j'ajoute encore une autre composante à ça.
Ouais.
C'est le rapport qualité-prix. Et ça, c'est un truc tellement subjectif.
Ouais.
C'est pour et ceux qui ne connaissent pas cette notion, c'est tout simple. Aujourd'hui, vous avez sûrement des amis avec qui vous échangez sur vos goûts en termes de restauration ou autre. Et vous allez peut-être être surpris qu'en parlant d'un restaurant, un ami va te dire
« J'adore ».
« J'adore ». Ou l'autre restaurant, il va dire « J'aime pas ».
Ouais.
Alors que vous aviez aimé. En fait, vous avez vraiment aimé. Mm-hmm. Mais en fait, quand vous creusez avec votre ami, vous allez voir que souvent, c'est pour ce que ça a coûté, j'aime pas.
Exactement. C'est plus que ça m'a coûté que ça passe moyennement.
Et donc,
quand c'est
pas le c'est un art, maintenant, mettez le commerçant au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'il met un prix, mais en face, il y a quelqu'un qui va le juger vraiment en fonction de ce qu'il propose de manière totalement subjective. C'est-à-dire, quand tu payes un plat, tu vas à un restaurant vraiment pas cher et que c'est pas bon, tu vas pas dire que c'est pas bon.
Oui.
Parce que pour toi,
c'est pas cher.
Donc, la perception, c'est quelque chose. Et en marketing, tu peux jouer sur cette perception
de
différentes façons, notamment avec l'expérience client.
Ouais.
Donc, ça veut dire, faut pas négliger ça. C'est-à-dire, quand on dit que quand quelqu'un vous écrit en DM et que vous le prenez directement en charge, ça a une valeur pour le client. C'est comme quand vous allez chez Louis Vuitton et qu'il vous donne une coupe de champagne.
Dès que vous venez pour acheter vos petits sacs, pour vous occuper.
Ça a une valeur.
Ouais.
Et puis après, il y a un autre truc c'est aussi, qu'est-ce que vous voulez donner comme... dans quel statut social les clients vont se projeter? C'est-à-dire, quand ils utilisent votre service, en fait, où est-ce que ça les classe, en fait ? Ouais. Qu'est-ce que ça apporte à leur ego ?
Bah alors, bah en fait, c'est ça, au final. C'est la valeur perçue de l'achat.
Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de marques vont se dire, nous, on est les leaders, parce que ils savent que beaucoup de gens vont être fiers d'aller avec le leader.
Bah, parce que les restaurants, c'est pareil. Quand tu arrives dans un certain resto, bon, les stories Instagram, c'est pour dire que tu étais là aussi.
C'est-à-dire que c'est ça.
Au-delà du fait que tu es mangé.
Et tout ça, ça joue sur, sur
comment tu
le prix. Et donc, franchement, le terme art, c'est vraiment
mais c'est intéressant ce que tu viens de dire sur la qualité, parce que c'est un truc que je pense que moi, j'aurais sous-estimé. Mais ce que tu dis est vrai, et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, et même pour des salariés, encore une fois, j'insiste, est-ce que tu penses que les gens, quel outil on pourrait donner aux gens pour qu'ils se posent la question de quelle est la qualité perçue de leur service et de leur société et de leur boîte ? Parce que je pense que, moi, je sais que beaucoup de gens ne se posent pas ça, en fait, comme question. C'est-à-dire que la qualité perçue. Parce qu'au final, toi, tu peux avoir l'impression que, parce que tu connais les complications qui amènent à ce que tu produis, que ce que tu fais est de meilleure qualité que le concurrent. Mais ça se trouve, si tu demandes à ton client, lui, il ne va pas calculer. Non.
Déjà, ce que tu as en tête est forcément au-dessus.
Exactement. Malheureusement.
Tu vois, combien de fois tu vas dans un restaurant, tu fais juste une petite remarque au restaurant et tu sens bien que le restaurateur n'est pas du tout d'accord avec ce que tu dis.
Ouais,
tu
parce que lui, il a toute une autre problématique derrière.
Ouais, c'est ça.
Et ça me rappelle un truc qui est très vrai. Bon, je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça, mais je suis même plus sûr que ce soit lui vraiment. Mm-hmm. Quand il disait que le plus dur, en tout cas en software en particulier, mais je crois qu'ailleurs c'est valable, c'est que le problème, c'est que souvent, pour faire quelque chose qui a une haute qualité, il faut que ça ait l'air super simple.
Ouais. Bah, ça ressemble à Steve Jobs.
Ça ressemble à Steve Jobs. Et c'est... Du coup, le problème, c'est que toi, ton travail, c'est de gérer la complexité d'une telle manière que les gens se disent « Ah, oh, c'est trop simple quand il fait ce truc-là. » Et c'est en même temps un autre outil de pricing parce que quand tu réussis à gérer une complexité que personne d'autre n'arrive à gérer, tu peux en fait pricer plus haut. Parce que les autres qui vont essayer de gérer comme toi, même s'ils essayent de pricer plus bas, la qualité sera effectivement moins bonne parce qu'il y aura de la complexité qui va ressortir.
Non, mais c'est clair, c'est les frictions que vous appelez.
Exactement, les petits mots des frictions.
Et ça m'a fait rire quand on a mis en place donc, le programme s'installer en Côte d'Ivoire.
Oui, oui.
On a choisi une plateforme
oui.
que je t'avais présentée, Schoolmaker. Et quand on a discuté donc, avec les membres du programme lors d'un Zoom, on s'est rendu compte que 80% des gens suivaient le programme avec leur téléphone.
Avec leur téléphone.
Et toi, tu m'as appelé, tu m'as dit, punaise, et ton truc là, c'est vraiment fort parce que s'ils arrivent à suivre sur le téléphone, c'est qu'en termes de développement, et moi j'étais là, pourquoi pas. Et puis je dis, non, écoute, je sais ce que c'est.
Je te dis.
Développer, et développer un truc interactif ça, sur le téléphone. Ouais. C'est un big deal.
Ouais.
Et c'est vrai que moi j'étais dans le client en fait.
Je dis, c'est crème.
Ouais, tu vois, je paye mon truc, ça marche.
Comme YouTube.
Voilà, tu vois, ouais, c'est ça.
Sauf que YouTube, c'est Google. Tu vois, genre, tu sais,
Non, mais YouTube, tu rigoles chaque fois, je voulais faire YouTube africain.
Exactement.
Mais en fait, quand j'ai creusé un peu, parce que pour moi, c'est simple, tu mets un truc, les gens mettent leurs vidéos.
Et c'est parti.
Et bon, à ma décharge, c'était il y a 10 ans.
Tu étais innocent, tu étais naïf.
Les kilomètres carrés de data center.
Ça coûte tellement cher.
Quand j'ai appris que chaque fois qu'on uploadait quelque chose, en fait, stocké, mais physiquement.
Non, partout.
Tu vois, à l'époque, je me disais, c'est le cloud, quoi.
C'est quelque part là-bas et puis là, ça part.
Kilomètres carrés dans les déserts, dans les data centers.
Ouais.
Et aussi, alors, la rapidité d'un site. Alors,
la rapidité, c'est le truc que personne... Alors, c'est comme on dit, ce n'est que quand ça ne va pas que les gens se plaignent.
Ouais, bah oui.
Quand ça va, personne ne te dira ton site est super rapide. C'est comme, tu vois, comme tu as dit, la Schoolmaker, tout le monde a regardé sur le téléphone. Moi qui suis dedans, je t'ai dit, mon ami, qu'une plateforme te permet de regarder des vidéos comme ça sur téléphone et qu'en même temps, il y a des petits commentaires de temps en temps, des trucs, que ce soit intuitif pour les gens, personne ne t'a fait la remarque. C'est très dur à faire. Parce que quelqu'un qui le fait, moi, je fais ce genre de truc. Je sais la quantité de boulot que ça demande. Et surtout, le problème avec ça, c'est que c'est un métier très ingrat. Tu sais, c'est triste, mais c'est un peu là, tout à l'heure, on a fait l'épisode, tu te souviens, sur la fin du monde. C'est le même métier que les opérateurs de téléphone. C'est que quand Internet ne marche pas que tout le monde insulte les opérateurs de téléphone. Le reste du temps,
Ouais.
On s'en bat les steaks, on va juste dire c'est cher. Alors qu'en fait, on ne sait pas ce que ça coûte pour maintenir ce truc.
Personne ne veut savoir. Là, les gens ont découvert qu'il y avait des trucs des dans l'océan.
Quand même, hein.
Ah oui, quand même.
Non, mais c'est terrible. Et c'est vrai parce que eux, par exemple, les opérateurs téléphoniques, notamment, c'est vraiment les gens pour lesquels je pense souvent à ça. Parce que tout ce qui est de l'infrastructure, c'est des métiers où, quand ça va, tout le monde s'en fout. Et tout le monde va causer ton prix. Donc, parce que par définition, on va se dire, ça marche, pourquoi tu fais aussi cher?
Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est extrêmement simple d'utiliser votre service?
Exactement.
Est-ce que c'est extrêmement simple d'avoir votre produit, de se faire livrer votre produit? Et voilà.
Ouais.
C'est bon, pour après, ça qu'on utilise Anka.
Anka, ouais, bon, écoute-moi, c'est la même logique chez nous.
Vous avez déjà développé pour eux, il n'y a pas besoin de...
Ben, sur la marketplace, on a eu ce sujet-là. Là, on va rentrer dans l'exemple des produits physiques. Mm-hmm. Donc, nous, c'était beaucoup vêtements, nourriture, etc. Et on s'est rendu compte très vite, je crois dès les premiers mois de Africrea à l'époque, que en fait, les vendeurs, quand on leur disait « vos produits sont chers », ils disaient « oui, mais je dois payer les impôts, je dois payer ci, je dois payer ça ». Donc, ils ont suivi ta logique, qui était en fait construire de manière à ce que… À l'époque, au début d'Africrea, il faut se rappeler qu'on avait beaucoup de gens en France, auto-entrepreneurs, qui donc faisaient ça pour avoir des profits, évidemment, et qui surveillaient de très près leurs marges. Ce qui était terrible, c'est qu'eux, ils étaient mécontents parce qu'on devait les comparer de facto à deux autres types de personnes. Les gens en Afrique, qui évidemment n'avaient pas les mêmes problèmes, donc faisaient des prix complètement différents.
Ouais.
Et une autre catégorie de gens qui étaient les gens qui ne faisaient pas eux-mêmes les trucs manuellement, qui les achetaient sur Alibaba, AliExpress ou ailleurs et qui les revendaient. Donc, chacun de nos types de clients avait une logique de pricing complètement différente. Les gens qui achetaient, revendaient, priçaient purement concurrence. Parce qu'ils savaient qu'ils achetaient tellement peu cher que leur travail était juste d'être moins cher. Les gens qui faisaient eux-mêmes avaient une pure logique amortissement de leur temps. Passer à faire la boucle d'oreille, passer à faire le vêtement. Et ceux qui faisaient en Afrique, leur seule problématique était une logique pure chiffre d'affaires. Donc, à la limite, ils ne savaient même pas s'ils gagnent de l'argent ou pas. Ils faisaient juste vendre. Donc, les trois avaient des environnements, des logiques complètement différentes et c'était un peu, du coup, compliqué pour nous en tant que marketplace d'assurer un certain… Parce que du coup, tu voyais des robes à 400 euros et des robes à 40 euros. Et les gens nous disaient, mais attendez, on ne peut pas les mettre à côté. Donc, tu vois, dans le pricing, il y avait aussi la question du positionnement.
Ah oui, déterminant.
Et les gens commençaient à nous dire, ouais, mais attendez, on ne peut pas nous mettre tous à côté en même temps, faites des zones séparées, comparées. Donc, je me souviens à l'époque, on a fait un test où on mettait les produits les plus chers dans une sous-partie du site différente des autres. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui faisaient des produits plus chers ont commencé à vendre moins et avoir moins de trafic.
Ah, parce qu'ils avaient du trafic qui venait par…
Par les prix moins chers. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer souvent aux gens, c'est que même si tu as un pricing différent…
Essayer d'avoir des produits peut-être de toute…
Proche, ou en tout cas, il faut que tu te poses la question, qui est ton client? Et c'était ça le problème qu'ils avaient tous. Et c'est ça qui m'a amené à l'outil après que nous, on a eu donc avec le livre blanc de… commençait à se dire, mais en fait, c'est qui vos clients? Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas les mêmes clients. Sauf qu'eux ne le savaient pas. Et les clients eux-mêmes, des fois, et c'est ce que j'ai dans la qualité perçue, des fois, le client, se lui demande, il ne sait même pas lui-même ce qu'il cherche particulièrement. Tu dis à quelqu'un, tu veux acheter de la mode africaine, elle va dire, ah oui, j'en ai besoin pour un événement. Mais elle ne sait pas d'elle-même, forcément, elle va dire, bon, j'ai un budget de temps, Mais en fait, certaines d'entre elles, quand elles voient certains produits, par exemple, elles peuvent se dire « Ah, je veux juste prendre une robe africaine parce que c'est juste l'été, j'ai envie de prendre un petit truc à 40 euros.
»
Elles viennent pour 40 euros, mais après, elles voient une autre robe là, à 200 euros où elles se disent « J'ai un mariage en fait dans 2 mois. Ça là, ça peut faire mon affaire. » Elles n'étaient pas venues pour ça. Mais du coup, ce que j'essaie d'expliquer souvent aux gens, c'est que chaque logique de pricing se tient. Le gros problème, c'est qui est ton client à ce moment-là.
Est-ce que tu dirais que le pricing peut être un facteur de mort d'une boîte?
Ouf, oui. Surtout, moi, je pense que la mort…
Si tu t'entêtes.
La plus fréquente des morts par pricing, pour être très honnête pour moi, c'est quand tu prices trop pas cher.
Oui, bon là, on en revient à…
On en revient au même problème. C'est qu'en fait, à mon avis, tu meurs plus comme ça parce que ce qui se passera, c'est que l'entrepreneur aussi ne voit pas… Le pricing aussi dicte à une autre chose, c'est la consommation de ton énergie.
Ouais, bien sûr.
Et ça, c'est très dur quand tu es entrepreneur, surtout au début, de te rendre compte que c'est ton capital numéro un, c'est sur quoi tu mets ton temps et ton énergie.
Mais chez les consultants et infopreneurs, quand tu es solopreneur, eux, ils se passent beaucoup le mot de... parce que tu vends ton temps, tu Exactement. Vends ta personne, tu es seul, ouais. tu as un certain prix, tu rentres sur le marché. Il y a une règle, c'est qu'à partir du moment où tout ton planning est pris, et tu dois commencer à augmenter ton prix.
Ah, intéressant.
Ouais, donc du coup, tu vas attirer
une autre type de clientèle.
Tu vas te servir de ton expérience passée, etc., ouais. etc. Et tu montes petit à petit. Mais le problème, c'est que, encore une fois, pour des raisons qu'il faudrait peut-être discuter plus en profondeur, mais les gens, parfois, ont du mal à augmenter. Il y a sûrement le syndrome de l'imposteur, il y a sûrement le... C'est tout ça à qui je suis pour augmenter. Ouais. Tu vois, et en plus, si ça, t'as eu du succès...
À un prix... C'est dur de l'augmenter.
Ouais, voilà. C'est comme si tu repartais à zéro, tu vois, dans une autre cour. Alors que on voit tous les jours, quand je dis on voit tous les jours, peut-être pas de près, mais même dans les documentaires, on voit qu'il y a des gens qui payent des chambres d'hôtel à 40 000 euros la nuit. Donc, en fait, quel que soit le prix, il y a une cible. Mais c'est vrai, moi, je pense que ce qui fait peur, c'est que les gens se rendent compte que les clients qu'ils ont eus jusqu'ici, qu'ils connaissent, qui constituent peut-être leur communauté,
leur base,
ne sont pas ceux... qui vont l'accompagner dans l'autre.
Exactement.
Mais tu peux créer une autre offre aussi.
Exactement. Et ben là,
d'autres vont jusqu'à créer une autre marque, une autre entreprise pour adresser ça.
C'est vrai. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram, je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a... plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast, où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique, où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mêmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en outchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti du quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 euros, c'est pas grand chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congossa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Et tu as raison. Du coup, quand on pose la question comment augmenter son prix, qui est une question que beaucoup de gens se posent, l'une des premières solutions, comme tu dis, c'est créer une nouvelle marque, créer un nouveau produit. En SaaS, on a une autre technique que je pense que d'ailleurs même les gens de B2B peuvent appliquer, mais tu me diras si vous l'avez déjà fait. C'est normalement, tu n'es pas obligé de pricer pareil tes nouveaux et tes anciens clients. Et c'est très fin. En fait, c'est un truc que beaucoup de gens ne réalisent pas. Si tu veux augmenter tes prix, l'une des solutions, c'est comme tu dis, ton agenda est plein de clients actuels. Première étape, tous les nouveaux clients qui viennent, propose-leur un nouveau prix et vois comment ils réagissent.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ce qu'on appelle le test d'élasticité prix. Si, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, tu facturais à 100 euros de l'heure, ton prochain prospect, une fois que tu as assez pour vivre, tu lui dis « Ok, maintenant, je veux pricer à 150 euros de l'heure. » Tu lui dis même pas que tu as changé. Tu dis juste « Ah, mon pricing, c'est 150 euros de l'heure. » Et tu vois sa réaction. Si sa réaction est évidemment « Oui, pas de souci, je paye », pose-toi la question. Parce que ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être d'autres personnes comme ça. Oh, fais le 3, 4, 5, 6 fois. Et en général, je crois que j'avais vu que si jamais tu réussis à le faire Nous, en tout cas, la règle que nous, on a appris, même quand on a augmenté nos tarifs chez Anka, je l'ai testé sur 10 à 15 personnes.
Mmh. Et oui, tous les nouveaux... Il faut savoir un prix, ça se teste.
Ça se teste, exactement. Mmh. Et là, moi, j'avais fait en plus du x2. Donc, l'abonnement était à 10 € par mois. Mmh. Tous les nouveaux vendeurs que j'avais au téléphone et que j'avais recruté moi-même, ouais, je leur disais, ah, en fait, l'abonnement est à 20 € par mois. Mmh. Et je voyais leur réaction. Et la plupart m'ont dit, ah oui, ok, pas de souci. Quand j'ai vu que tous la disaient, ok, pas de souci, j'ai dit d'abord, bon, tous les nouveaux clients passent à 20 € par mois. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que quand tu
mais
fais...
Mais tu n'as pas augmenté pour augmenter.
Non, j'avais augmenté parce qu'en fait, je me voyais bien déjà qu'on perdait de l'argent à 10 € par mois. Parce qu'il faut se rappeler que le pricing...
Là, je t'ai juste fait une faveur pour les gens qui... Qui t'a appelé.
À qui t'a appelé qui devait 20 €. Non, mais...
Tu peux retourner sur ton histoire.
Retourner sur mon histoire.
Passer ta fin. 20 €.
Attention. Mais en fait, c'est ça.
Vous perdiez de l'argent.
Voilà, et c'était même pas de l'appât du gain. Mais en fait, ce qui se passe aussi, et je comprends surtout un autre truc qui est point, quand tu augmentes ton pricing aussi, tu peux augmenter la qualité. Ce qui se passait aussi, la raison pour laquelle j'avais besoin d'augmenter nos tarifs, c'est que ce que les gens avaient besoin de nous, notamment cette touch où on peut les accompagner, les coacher sur leur pricing, leur donner plus de temps. Avec un pricing à 10 €, je ne pouvais pas le fournir.
Ouais.
En fait, le pricing détermine aussi les ressources que je peux mettre en face. Mais quand, du coup, tu as un test comme ça, où du coup, tu as une soft touch plus proche, je suis plus près de la personne, je me dis, OK, si lui, à ce prix-là, il est prêt à le prendre, ça me permet d'avoir à l'échelle plus de, par exemple, mes équipes de service client qui ont chacun 1 heure par jour avec un client.
Ouais.
Donc, en fait, c'est un exercice. Je ne sais pas si toi, tu as déjà testé ça en B2B. De...
Si, bien sûr. Mais juste la question, est-ce que quand tu dis qu'en mettant 1 €, tu peux te permettre d'avoir un service client plus affiné et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant? Est-ce qu'ils le valorisent, sachant que c'est des nouveaux clients? Ils ne savent pas vraiment la différence.
Ben, en fait, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est un peu sur la qualité perçue, comme je disais. C'est que tu regardes, nous, on fait souvent des NPS, le Net Promoter Score.
Ouais.
Dont on, je crois qu'on en a déjà parlé une fois.
On l'a
présenté
aussi.
Donc c'est vraiment comment tu as la satisfaction en comparant tes détracteurs et tes promoteurs.
Exactement.
Et en ne tenant pas compte des gens qui sont juste neutres.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu remarques, tu as 2 types d'insight pour moi sur le prix. Tu as l'insight des détracteurs, donc ils te diront ce qui ne va pas. Mais tu as aussi les insights prix des promoteurs. Ceux qui aiment ton produit, des fois ils te diront, ah mais en fait ça aurait été super si j'avais ça en plus. Et c'est de l'argent que tu laisses sur la table, hein, en fait, quelque part. Parce que typiquement, quand tu commences à regarder, à un moment, quand tu passes l'étape, quand ta boîte existe et que tu as passé l'étape comme nous, là, à un moment, tu n'es plus juste à créer une offre, tu commences à ce que moi, j'appelle regarder la part de portefeuille de ton client. Tu regardes combien, par exemple, il dépense en marketing. Tu te rends compte qu'en fait, toi, tu ne représentes que 10% de ses dépenses, en fait. Sur ses problèmes, moi, en tant qu'entrepreneur, je me rendais compte que, ben, en fait, mes clients... Les marques, ils dépensent plus d'argent en shipping qu'ils en dépensent en pub. Donc, c'était plus logique pour moi de faire un service où ils dépensent déjà de l'argent et que je sais que je peux faire mieux. Et donc, j'ai moi aussi une plus grosse part de leur chiffre d'affaires et donc aussi une relation plus forte avec eux. Au-delà de ça te fait de l'argent, c'est juste que ces gens-là, tu utilises déjà. Donc, tu peux te poser la question, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre dans lequel ils dépensent de l'argent?
Exact.
Donc, c'est pour ça que, par exemple, tu as des fois des gens qui font des restaurants. Après, rajoute des cocktails. Tu vois, c'est comme tu as dit, ça peut être des produits supplémentaires, qui est l'autre solution. Ou sinon, des fois, c'est juste que ton produit existant, si par exemple, tu te rends compte que l'alternative à toi, ton concurrent, nous, dans notre occurrence, c'était, je regardais PayPal beaucoup. Si tu demandes à quelqu'un de dire combien coûte PayPal, personne ne sait jamais. Les gens ont l'impression des fois même que c'est gratuit. Mais en fait, ça coûte cher PayPal parce que l'une de leurs façons de pricer, c'est que quand tu envoies de l'argent dans la même monnaie, ça va. Mais là où ils te tapent, c'est dès que tu sais envoyer dans une autre monnaie, ils ont des taux de change complètement différents. Et nous, c'est l'essentiel de notre activité, c'est que de l'intermonnaie. Et donc là-dedans, les gens se rendaient pas compte qu'ils payaient super cher. Et donc, par simplicité, tu vois, ils ont rendu simple le fait d'envoyer de l'argent, ils prennent de l'argent au-dessus. Et donc, c'est aussi ton travail en tant que... Quand tu fais le pricing, comme tu avais dit, il y a vraiment, regardez, toute la chaîne de valeur. En te disant, OK, en fait, la personne qui, à ce moment-là, me paye ce service-là, ton compétiteur là-dessus, quelqu'un d'autre qui l'utilise, lui, qu'est-ce qui fait qu'il réussit à pricer à ce prix-là? Pourquoi il s'en sort à ce prix-là? Attention, des fois, les gens juste perdent de l'argent.
Justement, sur la comparaison, ça, c'est attention à la comparaison. Surtout quand on veut fixer les prix. Parce que vous ne connaissez pas la structure de coût
de l'autre concurrent.
C'est-à-dire que... le gars, il a, vous avez votre pizzeria, mm-hmm. il a une pizzeria, il fait des prix peut-être plus compétitifs.
Ouais.
Mais en creusant un peu, vous allez peut-être savoir qu'il ne paye pas de loyer.
Il ne paye pas de loyer. Ça se trouve, les, exactement. Le loyer, par exemple, c'est un bien qu'il a récupéré, dont il a hérité.
Et tu vas rentrer chez toi, tu vas te prendre la tête.
Tu vas te dire, mais comment il fait pour s'en sortir à 9 euros? Moi, je suis à 12.
Ça veut dire que je suis pas bon. Ça veut dire que non, parfois, il faut se concentrer sur ces chiffres. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un consultant.
Exactement.
Qui va analyser votre profitabilité, voir ce qui est faisable. Mais il ne faut pas toujours se prendre la tête. C'est pour ça que la qualité perçue est un
important.
Indicateur numéro un. Parce que sinon, sur la concurrence…
Mais déjà, l'une des premières règles sur le pricing, ne changez jamais votre prix pour un concurrent. Mm. Même pas pour deux.
Mm.
Il faut, de manière générale, ce qu'il faut toujours se dire, pour rappeler, tu sais, on a déjà dit à l'époque concurrence. Un concurrent, c'est quelqu'un qui vous prend des clients.
Exactement.
Soyons clairs, c'est pas quelqu'un qui fait un truc qui ressemble. Mmh. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les robes faites par différentes créatrices. Mmh. Elles n'étaient pas concurrentes en fait.
Ouais.
Ce ne sont pas le même pricing, pas le même produit.
Mmh.
Donc quand quelqu'un, oui, comme tu dis, on prend la pizzeria, le gars fait les mêmes pizzas que toi, mais lui, il les fait moins cher, lui seul ne suffit pas.
Mmh.
Regarde les autres pizzerias du quartier. Essaie de regarder, comme tu dis, prends un consultant qui s'y connaît dans les pizzerias, compare les pizzerias dans le pays.
Mmh.
Ne regarde pas que ta zone, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça se trouve. Les prix dans ta zone ne sont pas les mêmes qu'en fait juste à 15 minutes plus loin.
C'est ça.
Parce que peut-être il n'y a pas effectivement le même public, par exemple, de gens qui travaillent.
Exactement.
Ou pas la même population. Donc en fait, le plus dangereux quand tu fais un benchmark de pricing, c'est de te limiter à un petit échantillon.
Mm.
La qualité d'un benchmark de pricing est complètement corrélée à la largeur de l'échantillon.
Ouais.
Si ton échantillon n'est pas de plusieurs, alors on va dire des dizaines de personnes, tu as un benchmark très faible. Sur le pricing, c'est la règle. Et c'est pour ça que nous, par exemple, sur Anka Marketplace, on offre à toutes les marques, quand elles créent un produit, on leur dit, sur ce type de produit, voici non seulement le prix moyen, mais on leur dit aussi le prix moyen des 3 produits les plus vendus dans la catégorie. Ce qui est très intéressant, parce que tu vas te rendre compte, souvent, il se trouve que le prix moyen de toute la catégorie, c'est-à-dire par exemple le prix moyen de toutes les robes courtes en wax, est plus bas que le prix moyen des 3 robes qui se vendent le plus. Et ça, les gens, des fois, ils l'imaginent pas.
Ça, tu me l'avais dit, j'avais trouvé ça super intéressant parce que ça permet de mettre le vendeur face à ses responsabilités.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne t'impose pas de prix.
Non.
Mais si tu mets un prix 4 fois supérieur
à la
moyenne,
c'est ton choix. Après, ne viens pas me dire que tu n'arrives pas à vendre.
Au
moins, tu as l'info. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que nous, on le fait parce qu'il faut que les gens comprennent. Notre info ne vient pas juste de 10-20 produits. Il y a la catégorie qui a le moins de produits sur Anka Marketplace doit avoir au moins 100-200 produits. Les robes, par exemple, dont je parle, les robes courtes, il y en a plusieurs dizaines de milliers. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on a les données qui évoluent en temps réel. Donc, à chaque fois que quelqu'un met des nouvelles robes, on sait te dire si les prix changent.
Ouais.
Et cette info même, c'est-à-dire que le prix, par exemple, un truc que j'ai remarqué, les robes longues se vendent moins cher en été qu'en hiver. Les gens ne le savent pas forcément. Mais nous, on te le met en temps réel. On te dit, OK, en ce moment, c'est ça le prix. Mais après, attention, il faut que tu regardes régulièrement. Parce que ça se trouve, des fois, tu vas avoir mis un truc, c'est OK à la moyenne.
Ouais.
Mais 6 mois après, merde, en fait, c'est plus cher. Donc, un autre truc qui est vrai sur le pricing et sur le benchmark, c'est que c'est, encore une fois, je pense, dans la notion de prix, ce que j'aimerais vraiment que les gens retiennent, c'est que c'est aussi dans le temps. C'est limité dans une géographie et limité dans un temps. Donc, en fait, c'est limité à une clientèle et limité à un moment.
Nous, on l'a abordé effectivement dans un premier temps, le pricing sur… j'essaie de me souvenir, mais c'était très lié soit à la concurrence ou alors j'avais à l'époque une autre stratégie qui consistait comme c'était un service… Donc du consulting, je faisais un calcul de ce que ça leur coûterait s'ils employaient des personnes pour faire le service. Et donc, j'essayais de proposer un prix où, dans le cas où ils faisaient ce calcul, c'était forcément
mieux intéressant.
Voilà.
C'est super intéressant. Ce que tu as fait, c'est un calcul de qualité perçue.
Ouais, voilà.
C'est le coût perçu d'ailleurs.
Parce que, après, eux, normalement, ils ont, après, ils ont les charges sociales, ils ont...
Ah, voilà, ils ont tout ça en top.
Ils ont tout ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'autant d'entreprises prennent du consulting. C'est parce que eux, s'ils embauchaient tous ces gens-là, ouais, ça leur ferait une charge salariale
énorme.
Très, très, très élevée, difficile à justifier auprès des actionnaires, etc. Donc, tu fonctionnes comme ça. Et là où je suis d'accord avec toi, où c'est le temps est une donnée super importante, c'est que après, dans le temps, ce qui se passe, c'est que ben, toi, pour affiner, tu prends des nouveaux outils.
Exactement.
Tu vois,
tu formes les gens.
Tu formes les gens. Ah, ouais. Tu évolues. Ouais. Et donc, du coup, tu as tes coûts qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Et tu arrives à un moment donné où, comme ce que disait Jenny, tu te rends compte que ce n'est plus forcément intéressant. Tu vois.
Ouais.
Et donc, le vrai shift, c'est quand on a pris le modèle...
Okay.
Des cabinets de conseil.
Ah oui, tu en avais parlé là, quand la team Accenture est venue te renforcer.
J'ai entouré un peu d'anciens d'Accenture et le modèle aussi de ce qui se fait dans les cabinets d'avocats,
ouais,
c'est le taux horaire, le taux journalier. Mm. C'est-à-dire dans le service, qui est vraiment, vraiment important, c'est que vous devez savoir dans votre entreprise quelles sont les personnes que vous pouvez facturer. Parce que ce que vous vendez, c'est des jours.
Exactement.
C'est du service, c'est des jours. Donc, vous devez savoir quelles sont les personnes que vous pouvez facturer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au début, vous vendez, vous pouvez vendre votre associé, voilà, une recrue. Mais après, quand vous avez un responsable financier, bah, lui, vous ne pouvez pas le vendre sur une mission.
Ouais.
Responsable ressources humaines,
ouais,
trésorerie, etc., etc.
Le loyer, tu ne vas pas le vendre dans
la
mission.
Voilà, le loyer. Donc, du coup... dans le coût de chaque personne, donc vous calculez le coût de chaque personne, mais dans ce coût, il n'y a pas que son salaire. Il y a son salaire, il y a les charges sociales, il y a son assurance, il y a tout ce que vous donnez pour tout ce qui est maladie. Et vous avez également une partie des charges fixes.
Exact.
Parce que pour cette personne, ben, vous payez Internet, vous payez l'électricité, etc.
Vous payez le loyer, ouais.
Et donc là, vous commencez à avoir une idée de ce que vous coûte réellement chaque personne.
Mmh.
Et donc maintenant, en fonction, là où le raisonnement a changé, c'est qu'avant, on raisonnait à comment satisfaire le client d'un point de vue.
Comment le convaincre, ouais.
Et maintenant, on réfléchit à comment atteindre notre objectif.
Exactement.
Donc à partir de ces coûts-là, maintenant, on va appliquer une marge qui va nous permettre donc de couvrir tous nos frais, mais également d'atteindre nos objectifs en termes de
chiffre d'affaires et de profitabilité.
De profitabilité.
Donc, mais du coup, tu as une marge standard pour tout le monde ou vous faites des marges différentes par industrie, par pays?
Ah, alors non, on a, c'est plus en fonction des typologies de projets.
Ah, intéressant. Voilà. Mais donc, sinon, vous, c'est par sinon, type de service. C'est vrai que vous avez beaucoup de services.
Oui, c'est par type de service parce que ouais, on a plusieurs services. Et donc, moi, j'ai testé tellement de business models.
Ah, c'est intéressant, ça.
Je me suis rendu compte que tu ne peux pas faire la même chose. Tu ne peux pas appliquer, par exemple, la même commission selon que tu fais une campagne d'influence. Selon que tu fais un accompagnement stratégie, ce n'est pas la même chose. Parce
d'accord.
Que, en fait, ce qui, en général, est le différenciant dans le taux de marge que tu vas mettre, ça va être le niveau d'incertitude sur un projet.
Ouais.
Tu vois, donc sur un
accompagnement. Sur le résultat final pour le client. Ouais.
C'est ça. Et donc, parfois, il y a des gens qui disent, mais c'est juste une prestation de 3 semaines, 1 mois. Et en fait, je leur explique que plus c'est court, en fait, plus c'est cher.
Ouais. Parce que vous avez moins de temps de tester, moins de temps d'ajuster.
Exactement. Donc,
c'est vrai.
Quand tu as des... S'il y a de la casse, tu peux pas réparer. Il y a trop de risques, en fait, dans un truc. Et donc, sur un projet plus long...
Là, tu peux avoir une marge moins grande parce que tu as le temps d'ajuster.
Tu peux certaines choses, tu peux t'organiser, tu sécurises certaines choses. Mais par exemple, si tu dois faire... par exemple, ceux qui sont dans le pur marketing digital, la performance, eux, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils vont te dire, OK, je vais faire passer ta pub sur... sur
telle audience,
etc. Tu as un budget de combien? 10 000 euros, ok. Moi, les 10 000 euros, ben, moi, je vais prendre, je ne sais pas,
15%.
15%, donc 1 500 euros. Donc après, le client va choisir, est-ce que ces 1 500, il les prend dans les 10 000 ou bien il rajoute 1 500, donc ça fait 11 500.
Ouais.
Peu importe, mais en gros, comme là, c'est très automatisé, c'est très, ouais. Tu vois, la commission va être fixe ou plus ou moins basse. Mais s'il rajoute un plan, une ouais. stratégie, mm-hmm. il va augmenter sa commission mm-hmm. parce qu'il va avoir des allers-retours.
Ouais, parce que là, il y a plus d'incertitude. Ah, c'est intéressant. C'est l'incertitude qui détermine à quel point tu peux ou non marger et la durée, du coup.
Exactement. Tu dois te protéger. Et sur la durée, ouais, normalement, il faut privilégier les projets longs dans le service parce que tu as, ça t'apporte une certaine sérénité en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que, tu vois, je parlais des personnes que tu dois placer sur des projets.
Ouais.
Bah, si on te dit que telle personne est vendue pour 12 mois,
c'est bien.
Oui.
Son année est sécurisée.
Ouais, voilà.
Son salaire, toute cette année, vois, on ne va pas s'inquiéter.
C'est ça.
Mais du coup, tu marges moins, forcément, on marge moins sur les longs projets que sur les petits, tu dirais ?
Alors, oui, tu alors, après ça, c'est notre stratégie.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas consentir forcément plus d'efforts financiers sur le long.
Bien sûr, c'est logique. Long, non, c'est que vous privilégiez le long.
Exactement, sur le court, tu vas être beaucoup moins flexible parce qu'en plus, ça va te demander parfois de prendre des équipes qui sont déjà sur des projets.
Ah, et les mettre ailleurs.
En fait, ouais. tu ne peux pas recruter pour un projet court.
Ah, c'est très vrai. Ouais.
Alors que sur le projet long,
tu peux investir.
Éventuellement, tu peux investir. Mais tu ne peux pas investir. Donc, tu vas investir du temps. Mais tu vas investir du temps en plus de ce que tu as à faire pour
tout le reste.
Satisfaire, tu vois.
C'est vrai ça. Et du coup, mais ça a changé dans le temps. À une époque, je pense, quand tu disais que tu priçais pour ton client pour voir combien ça lui coûterait l'alternative, en gros.
Ouais.
Là, à cette époque, tu étais plus concentré sur avoir des projets même.
Alors, j'étais sur une pénétration de marché.
C'est voilà.
Pour ça, quand tu disais, je voulais faire juste un petit bémol quand on disait ne vous fiez pas trop à la concurrence. Mm-hmm. Je pense. Peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, quand tu rentres sur un marché…
Tu peux au début.
Tu peux…
Mais il faut que ce soit large, encore une fois.
Ouais, voilà. Mais tu peux, en fait… Bon, le mieux, c'est de tester tes prix. Mm-hmm. Mais en gros, selon le niveau d'agressivité que tu veux
dans
le marché…
Ouais.
Nous, il y a des gens qui rentrent avec des prix très, très, très bas. Tu vois.
Jusqu'à aujourd'hui.
Oui, il y a des gens qui rentrent sur le marché comme ça. Mm-hmm. Mais ce qui est dangereux avec ça, c'est comme on a dit, c'est que… tu vas effectivement attirer des clients, mais tu pourras très difficilement
continuer à opérer,
à augmenter
la qualité.
Prix, tu vois, parce que tu te dis, je fais ça pour le moment.
Ouais.
Comme je te disais, c'est très dur
d'augmenter
de changer. Et deux, en fait, si tu es dans un secteur où les gens se parlent beaucoup, tu vas très vite avoir cette réputation de pas cher.
Ah oui.
Et donc,
ah, oui,
du coup,
lui, il est abordable. Ça va être ton…
Ça va être ton étiquette. Tu vois,
c'est comme
si tu demandais à, je sais pas quel supermarché réputé pour être.
Ici, c'est Auchan, les gens disent dans les nouveaux.
Pas cher.
Ouais, voilà.
Et que tout d'un
le
coup.
Leclerc est
vois,
moins cher en France.
Voilà.
C'était personne dans le quartier.
Et puis que tout d'un coup, tu vois, tu décides de. Bah, on va se dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu vois.
Ouais, pourquoi Leclerc d'un coup
quand
dirait.
Quand t'as une étiquette, c'est
dur à changer.
C'est très dur. Donc, il faut faire attention à comment tu rentres. Et généralement. Il y a des prix hein, que tu fais, c'est impossible d'avoir un niveau de qualité.
Ah, intéressant. Ouais.
Donc, du coup, tu vas également avoir une réputation de
pas cher, mais pas ouf.
Tu vois.
Le pas ouf est très dur à changer.
Tu vois, et le problème, c'est comme tu veux plaire au client, le client, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je cherche pas cher et bon.
Tout le monde, c'est toujours ça. Mais
et donc
pas cher, bon et rapide.
Capable,
pas cher, bon et rapide.
Et tu veux être capable d'être la personne qui va promettre ça.
Ouais.
Mais si tu rentres dans une fausse promesse, t'es mort.
Ben, c'est pour ça qu'on peut remettre le triangle là, qu'on a dit de pricing.
Le triangle.
Tu sais, on avait parlé, je ne sais pas dans quel épisode on avait parlé de ça, mais dans toute offre que tu fais, tu dois choisir entre être abordable, de qualité, ou consommateur de temps, ou rapide.
Oui, c'est la valeur que tu apportes.
Exactement.
Oui,
normalement,
en fait, c'est ce qui va vraiment augmenter ta perception auprès
des gens.
Des clients.
Et normalement,
est-ce
quand
que
tu prices,
tu fais gagner du temps, de l'argent.
Où tu es, où tu fais gagner du temps, de l'argent, ou en qualité d'expérience. Et souvent, normalement, toutes les boîtes, tu dois en choisir deux, t'en laisses un. C'est-à-dire que si tu es le truc super bon, qui marche super bien et qui est super rapide, ce sera probablement plus cher.
Et si on remarque bien, je sais que dans le milieu de start-up, ça, c'est une règle qui est très, très appliquée parce qu'on se dit, si tu... Enfin, c'est la première chose qu'on regarde quand tu lances une app.
Exactement.
Parce qu'en haut, l'app, c'est censé être une commodité, c'est censé être un assistant.
Voilà.
Donc, qu'est-ce que tu me fais gagner?
Exactement. Quand tu commences, et c'est. Et en fait, tu as le triangle. Donc, à chaque fois que tu commences une offre, et c'est ce qui est bien, c'est que tu peux avoir une stratégie de pénétration, mais en sachant qu'à terme, c'est ça que tu veux mettre en avant. Tu peux dire, je suis moins cher pour le moment, mais à terme, ce n'est pas ça qui va être mon distinguo.
Oui, mais alors, après, ce qu'il faut, là où il faut faire attention, c'est que les personnes que tu auras en face, tu vois, c'est comment est-ce que. Enfin, ou alors, tu assumes que. Ces personnes-là, c'est pour te lancer, mais que tu n'iras pas forcément avec elles après. Oui. Moi, ça s'est passé aussi comme ça, mais je ne l'ai pas fait de manière...
Toi, ce n'était pas intentionnel.
Intentionnel. C'est-à-dire qu'au départ, on a travaillé, par exemple, avec certains restaurants ou avec, tu vois, certaines écoles, enfin, certaines entreprises. Mais après, quand on a basculé dans le monde des multinationales, c'était autre chose. Donc, en fait, ces clients-là, qu'on avait au départ... ne sont pas les clients qui ont
continué.
Voilà, qui ont continué dans notre seconde phase, tu vois.
Intéressant.
Mais ça s'est pas fait.
Tu l'as pas géré en mode, tu leur as pas dit non, mais en fait les gars, vous êtes trop chers, salut, au revoir. Enfin, vous êtes pas assez rentable.
Non, mais je pense avec le recul, peut-être que bon, nous aussi on a, tu sais, on n'a pas été extrêmement pushy dans les renouvellements. Enfin, ça s'est fait.
Ah,
un
ça
peu,
se fait naturellement.
Ouais, naturellement. Parce qu'à un moment donné, tu es plus pushy sur.
Là où tu veux aller.
Ouais, là où tu veux aller.
Forcément. Et c'est vrai que c'est un truc que tu dis ça parce qu'en fait, oui, ton pricing aussi reflète là où tu veux aller.
Ouais, c'est vrai. D'accord. Ton ambition.
Ton ambition. Et c'est souvent ce que je dis aux gens. C'est ça que je te disais, que les gens ont beaucoup de mal à changer leur prix. Mais en fait, il faudrait. C'est un peu comme quand on disait à l'époque, il faut que tu te fixes un taux horaire que tu veux atteindre.
Ouais, toi déjà, personnellement.
Personnellement, mais même en tant qu'entrepreneur, quand tu lances ta société, je dis souvent aux gens, c'est OK d'avoir une stratégie, mais mets-toi une durée. Et après, pose-toi la question, à quel moment j'augmente? Parce qu'en fait, à un moment, il faut que tu justifies ton augmentation. Moi, je me souviens que par exemple, nous, on a augmenté nos prix, je ne sais pas combien de fois dans notre histoire, mais on l'a fait de toutes les façons possibles imaginables. C'est-à-dire que je pense que quand on a commencé la première version d'Africrea avec Luc, je me souviens, les gens ne savent pas ça, mais sur la toute première version d'Africrea en 2016, au 30 mars 2016, quand tu as acheté sur Africrea, pendant 2 mois, on ne facturait même pas les vendeurs. On a lancé la plateforme, on n'avait même pas encore fini de développer les commissions. Parce qu'on voulait tester tout de suite la valeur de l'offre qu'on avait, parce qu'on avait un autre site avant qui était pourri, on avait mis un nouveau site, on voulait d'abord voir, et la priorité était que les gens fassent des transactions.
Mais tu vois, sur les marketplaces, je ne sais même pas si je t'ai déjà dit ça, mais j'avais pendant des semaines beaucoup étudié le sujet marketplace.
Ah bon?
Ouais. Pourquoi déjà?
Tu voulais faire une marketplace sur quoi? C'était à l'époque d'influencing, tu l'as
testé? Non, même pas. Ouais, peut-être. Peut-être à l'époque
de Tina.
Du projet de technologique d'influence. Parce qu'il y avait une question qui revenait toujours quand on parlait de marketplace. C'était, OK, mais si Monsieur A et Madame B t'as mis en contact via ton application, s'ils se connaissent après, pourquoi ils auraient besoin de toi?
Ils reviennent toi, exactement.
Et chaque fois, c'était la question, tu te souviens, coiffeuse afro?
Ma coiffeuse afro, ben, ils sont encore là. Hein.
Oui,
les mecs sont encore là, etc.
Et Airbnb.
Sur le service, c'est un peu plus violent que sur le bien. Mais c'est vrai que sur les marketplaces de services,
c'est la première question. Parce que ça nous est même tous arrivé de bien s'entendre avec un Uber et puis finalement,
on prend son numéro et puis on voit.
Donc, tu te dis, mais c'est vrai... finalement, je suis qu'une commodité. Et j'avais été très loin. J'avais trouvé, je crois, un blog qui était spécialisé sur les business des marketplaces. Et cette question était posée. Il avait bien répondu, le type.
Ben, en général, la réponse est assez simple sur les marketplaces. De manière générale, sur le monde de la commission.
Ouais.
C'est qu'en fait, il y a deux critères qui déterminent si jamais une commission est un modèle valable. Un, il faut que les deux parties, et des besoins suffisamment fréquents ou de type où l'autre ne peut pas toujours assurer. Toi, ton Uber, par exemple, tu ne gardes pas le numéro d'un taxi si tu n'es pas sûr qu'il est tout le temps dispo à l'heure où
tu en as
besoin.
En général, tu prends le contact parce que 3 jours après, tu as telle course.
Mais si c'est quelque chose que tu fais fréquemment.
Ouais, tu vas préférer quelqu'un de...
Tu vas prendre Uber parce qu'en fait, tu es sûr que là, il y a toujours de la disponibilité.
Exactement.
Donc ça, c'est la première chose qui aide une marketplace. Nous, par exemple, tu ne peux pas te dire « Ah, j'aime bien cette marque, donc je ne vais acheter mes robes que chez elle. » Parce que tu n'es pas sûr que le jour où tu as besoin d'autre chose qu'une robe, elle l'aura. Donc, c'est ça qui nous protégeait dans un premier temps. Après, l'autre aspect qui est très vrai dans une marketplace, c'est que normalement, il faut que tu décides lequel des deux parties est celle qui te rémunère et celle dont tu as besoin pour attirer l'autre partie. T'es la poule et l'œuf, on appelle ça à chaque fois. Donc, il faut que tu décides laquelle des deux parties tu privilégies, quitte à ce que l'autre parte. Et chez nous, c'était les vendeurs. Et c'est toujours jusqu'à aujourd'hui les vendeurs.
Ouais,
C'est-à-dire que si j'ai à choisir entre perdre sans vendeur ou perdre sans acheteur, je perds sans acheteur sans fermer les yeux.
Ouais. Mais c'est ce choix-là qui, je pense, est très pas, si vous l'avez fait très tôt, ça ?
Très tôt, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu le fais à partir du moment où tu regardes, chaque marché est différent, chaque industrie est différente. Mais dans l'industrie qui était la nôtre, donc de la mode et de la créativité, notre croissance venait, et c'est ce que j'expliquais à tous les vendeurs, plus on a de produits sur le site, plus on a de vendeurs, plus on avait de ventes.
Mais regarde Airbnb, par exemple, bon, ils ont commencé très tard à faire des grosses pubs, mais
c'est
aujourd'hui…
Pareil, c'est les hébergeurs.
Oui, mais aujourd'hui, quand ils font des grosses campagnes de pub, c'est auprès
hébergeur.
Des…
Non, c'est hébergeur. Ah là où ils dépensent plus d'argent jusqu'à maintenant, Airbnb, c'est hébergeur. Juste d'accord. Que tu les vois moins parce que t'es pas là, ils te ciblent, t'es pas dans les zones où ils ciblent.
Si tu es propriétaire.
Non, mais t'es pas à New York. Si tu habitais à New York, par exemple, ou que tu habites à Paris, tu verrais beaucoup de pubs. Regarde même Stephen Bartlett dans Diary of a CEO. Il a fait une pub pour Airbnb. Et qu'est-ce qu'il a demandé ? Ah, lui aussi, il veut mettre son appartement en location. Vous devriez tous chercher à gagner de l'argent.
Mais c'est vrai qu'ici, par exemple, Yango, on voit essentiellement des pubs pour les chauffeurs.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'eux aussi savent où est leur problème.
Son focus, là.
Et exactement, c'est là. Donc, en fait, effectivement, quelque part aussi, ça détermine qui tu prices. C'est pour ça que, par exemple, la commission, c'est le modèle le plus dangereux à tenir à long terme.
Ouais.
Je déconseille à qui que ce soit de faire une boîte qui repose entièrement sur la commission. Parce que le gros problème avec le monde de la commission, c'est qu'effectivement, tu es toujours entre deux personnes qui, à tout moment, peuvent ou aller ailleurs ou peuvent trouver une alternative. Donc, c'est pour ça que nous, assez vite, je t'ai dit, dès qu'on a commencé la marketplace, donc au début, on ne prenait pas de commission. Au début, notre tout premier commission marketplace était à 5%. À l'époque, on était encore en pénétration.
Ouais.
Quand on a mis la nouvelle plateforme, on est passé à 10% parce que maintenant, on avait le wallet. Et on disait, OK, les gars, nous, c'est le seul endroit où, quand un acheteur t'achète, tu as tout de suite ton argent qui est visible.
Oui.
Et tu n'as pas à attendre.
Ça,
c'était la petite innov. Donc, pour l'innov, tu vois, on a mis un petit 10%. Et après, on a eu de la compétition. Zuva, aux États-Unis, qui est morte, là, que tu sais, qu'on essaie de racheter. Elle est chargée les gens 15%. Et nous, on était vénères parce qu'on se disait, mais pourquoi ? Et en fait, on avait compris qu'elle chargeait 15% parce que quand on demandait aux vendeurs, je n'ai pas demandé à elle, j'ai demandé aux vendeurs qui sont, parce qu'il y en a des vendeurs qui étaient chez nous deux, je lui dis, mais pourquoi vous payez 15% là-bas ? Vous mettez plus de produits là-bas que nous chez qui vous payez 10%. Parce qu'à la fin, quand tu veux comparer un benchmark, la question n'est pas est-ce que la personne vous consomme tous les deux. C'est chez qui il met le plus d'effort.
Ouais.
C'est-à-dire que la pizzeria, si vous êtes deux pizzerias, la question n'est pas est-ce qu'il achète une pizza chez vous, une pizza chez l'autre. C'est chez qui il achète le plus souvent.
Ouais.
Et s'il achète le plus souvent, c'est celui qui coûte le plus cher. Là, tu as un vrai problème de qualité perçue. Et, tu vois ce que je veux dire
Oui.
Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, il mettait plus de produits chez elle. Parce qu'en fait, eux, leur besoin premier derrière la commission, donc c'est là où il faut connaître ton client, les gens payent une commission pour avoir des clients qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Ils ne payaient pas une commission pour gérer les clients qu'ils ont.
Ouais, mais du coup, la différence entre 10 et 15, là.
C'est-à-dire que
qu'est-ce qu'ils t'ont répondu ?
Elle, ils m'ont dit non, mais elle nous ramène plus de ventes.
Ah, d'accord.
Parce qu'elle, elle faisait beaucoup plus de marketing. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui l'a tué. Elle dépensait plus de 20 à 30 000 euros par mois en pub Facebook. Donc elle a tué son business à faire trop de pubs.
Mais voilà, là on est typiquement dans un cas
de
propriétaire de marketplace qui a essayé de contenter les deux.
Les deux. Elle a choisi
autant d'efforts sur
les deux, mais elle a mis surtout beaucoup d'efforts sur les acheteurs, elle.
Qui sont plus nombreux en plus.
Plus nombreux. Et du coup, ça a attiré plein de vendeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À l'époque, je me souviens, quand elle, du coup, on a essayé de la racheter et quand ça n'a pas marché, qu'après elle est retenue de son côté. Le jour où ça n'a pas marché, je me souviens, le jour où elle a quitté Abidjan, c'est ça, on l'avait amené à Abidjan. C'est là, je sais quand elle a quitté. Le soir même, Kader et moi, on était là, on discutait, j'ai dit, tu sais, mec, demain, on change nos tarifs. Il dit, comment ça ? Je dis, parce que cette femme-là, sa boîte va mourir. Et le jour où elle meurt, il faut qu'on soit au même prix qu'elle. Il m'a dit, mais Moulay, si on se met au même prix qu'elle, on risque de perdre nos clients actuels. Parce qu'ils vont se dire, mais il coûte aussi cher que Zuva, mais je n'ai pas autant de ventes que Zuva. Je lui dis, écoute, la vérité, c'est quoi ? Et c'est ce que j'explique toujours aux gens. C'est que toi, tu sais quelle est la valeur du travail que vous faites tous les deux. Elle le vend moins cher parce qu'elle prend un risque opérationnel, comme tu dis, qui fait qu'elle va mourir. Donc, je lui ai dit, il vaut mieux que nous, on se place à son niveau, quitte à ce que pendant un moment, les gens disent, non, mais ils sont chers pour rien. Quand ça va mourir en face, ils vont comprendre qu'en fait, c'était le prix du business. Et c'est un peu risqué, hein, mais en tant qu'entrepreneur, normalement, tu dois avoir un minimum de conviction sur là où le marché va.
Ouais.
Tu vois, en fait, tu dois te dire, c'est pas là où tu es aujourd'hui. Donc moi, j'ai dit, écoute, si c'est ça sur quoi on nous juge, il faut que avant qu'elle meure, donc avant, j'avais dit 6 mois, 1 an, il faut qu'on soit aussi bon qu'elle en marketing. Maintenant qu'on avait vu que c'était ça le sujet, on s'est buté en marketing, mais on a augmenté nos tarifs directs. Donc, évidemment, nos clients nous ont insultés en disant, ouais, mais pour qui vous prenez? On a des vendeurs qui sont partis. Pareil, quand le Covid est arrivé, on a aussi changé nos tarifs une autre fois. C'est là où on a mis l'abonnement en plus. On est passé de la commission à l'abonnement.
Ouais, ouais, ouais. Si, si.
Ah, c'était la guerre.
Les clients l'abonnement aussi, c'est un business model
difficile.
C'est difficile. Hein. Bah, sur le papier, tu vois, chaque fois, tu ne peux pas t'empêcher de faire un calcul. Tu dis, tu regardes un service, tu dis, ah ouais, c'est genre Spotify. C'est en Afrique, en plus, Spotify, ils ont une offre, même c'est encore moins cher.
Mais exactement. Bref,
dans le monde entier, je crois que c'est quoi, 10 euros
10 euros, 9 euros, 9, voilà.
Et puis quand tu dis, OK, ils ont 10 millions de... Ah ouais, ils sont bien.
Ils sont bien, voilà. Non, mais
chaque mois, ils reçoivent 100 millions et tout ça. Mais
pour faire ça, c'est dur. Et parce qu'il faut que les gens se perçoivent dans le futur avec toi. Et nous, je me souviens, une autre chose, encore une fois sur le pricing, ce que je veux vraiment que les gens comprennent quand on insiste sur le... Et c'est pour ça que vraiment dans notre boîte, et là, je parle vraiment de mes employés pour parler aux employés qui nous écoutent, c'était très dur de faire comprendre à mes employés d'abord la logique de « on arrête de faire des commissions uniquement, on fait aussi de l'abonnement ». Parce que je leur ai dit, au-delà de l'argent que ça nous rapporte stable, parce qu'en vrai, ça ne nous rapportait pas des masses, hein, parce que 10 euros par abonné, on en avait 2000, 3000, c'était 20 000 euros. Ce n'était pas un truc de ouf comparé à nos commissions. J'aurais dit non. On perdait même de l'argent. C'est-à-dire que quand on faisait la somme de combien on gagnait en prenant des commissions aux gens et combien on gagnait en prenant des abonnements et un peu moins de commissions, on gagnait moins d'argent avec le modèle d'abonnement.
D'accord. Mais même en passant à 20 ?
Non, parce qu'à l'époque, on était à 10. Quand j'ai fait la transition au départ, c'est une des choses que j'ai souvent conseillé, tu peux, quand tu transitionnes, mettre un prix plus bas d'abonnement. Parce que l'abonnement a un autre pouvoir, comme j'ai dit, c'est que tu peux au fur et à mesure l'augmenter. Tous les SaaS sur Terre changent leur prix tout le temps.
Ouais.
Ça, c'est, il faut le savoir. En SaaS, tu veux changer ton prix tous les mois. Il n'y a rien qui va se passer. Ton client, normalement, si ton usage est bon, le client va couiner, mais il va rester. Et tu as l'alternative, encore une fois que je répète, tu peux même avoir des strates de clients différents. Tu peux commencer à dire, mes clients de l'année 2019, ils ont un prix. 2020, c'est un nouveau prix pour tous les nouveaux clients. Seuls 2019 continuent à payer leur prix, par exemple pendant un an, deux ans. Et un jour, tu les repasses sur le nouveau tarif. Ou tu peux même repasser sur le nouveau tarif, certains d'entre eux, en disant, toi, je te repasse sur un nouveau tarif seulement si tu utilises tant l'application, si tu fais tant de volume. Nanana. Donc, tu peux changer. Mais ce qui était intéressant sur le pricing, je vais vraiment faire comprendre aux gens, c'est que nous, on a aussi choisi le pricing d'abonnement parce que l'abonnement changeait la discussion. C'est-à-dire que les vendeurs qui venaient nous voir au départ juste pour la commission, c'est parce qu'ils voulaient avoir des ventes. Quand on a commencé à faire du shipping, là, on réglait un problème pour eux. On leur faisait avoir quelque chose moins cher sur lequel ils dépensaient toutes les semaines. Donc là, j'ai dit non. Si on veut qu'on nous voit comme des partenaires, comme un outil qu'ils utilisent tous les mois, on ne peut pas juste leur prendre des commissions. On ne peut pas non plus juste prendre des marges. Donc, il faut qu'on ait... En fait, ton pricing et ta relation commerciale avec quelqu'un...
Mais le pricing, c'est une communication à ton écosystème.
À tout l'écosystème.
Moi, je dis souvent que même nos devis...
Ah, intéressant.
Nos devis, oui, c'est une façon de communiquer. Parce que si tu dis forfait, je ne sais pas, forfait, 6 mois, accompagnement, et puis que tu mets une ligne,
montant.
Je sais pas, tu mets 18 000 euros, par exemple... Tu peux le faire, c'est ce que la majorité des gens font. Mais en gros, moi, j'insiste pour que les devis soient focalisés sur les livrables, par exemple. Tu vois. En fait, je veux que la personne, quand elle lise, parce que tu sais, c'est pas encore signé quand on voit le devis. Tu vois, tu peux avoir une discussion. C'est pas encore signé. Moi, je lui rappelle la valeur.
C'est intéressant.
La valeur, tu vois.
Toi, un devis, à un moment, rappelle la valeur.
Oui,
c'est vrai,
tu rappelles la valeur. Tu as droit à ça, tu reçois ça, tu reçois ça, tu reçois ça.
Ouais,
ça,
c'est la dernière ligne de closing, en fait. Oui. C'est le dernier document de closing pour toi, un devis.
Et quand tu dis équipe dédiée, tu dis, ton chef de projet, senior expérimenté, mi-temps, full-time, etc., etc. Tu as droit à, voilà.
Il faut que quand ils voient le devis, ils soient contents.
Oui.
Idéalement.
Voilà. Exactement. C'est ce que tu Pourquoi veux... ouais. Parce qu'en plus, en B2B, vous avez la personne face qui est souvent le bon, ça peut être un décisionnaire, mais derrière il y a pour les grandes boîtes surtout un service financier, un service achat. Donc tu lui redonnes encore les arguments au cas où
quand il arrive là-bas, là, on lui dit la question, mais en fait, tu payes pourquoi ? Voilà. Quel accompagnement
si
encore ?
Si tu mets juste une ligne et tu dis comme prévu dans les discussions, etc., et que ne t'étonne pas que ça prenne du temps après.
Oui, parce qu'il va falloir que
ça prenne du temps.
Mais... Voilà, mais chaque personne qui va voir le deal va devoir redemander c'est quoi ?
C'est quoi ? Voilà.
Tu vois. C'est vrai, ça.
Ouais, sûr, non, tu mets ça. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est des outils de.
Et c'est intéressant que tu dis ça parce que je sais qu'en B2B, les gens sous-estiment. Les gens ont l'impression qu'en B2B, c'est genre en mode, comme c'est assez opaque les pricing, les gens se disent que ça n'a moins d'importance.
Qu'est-ce qui a moins d'importance ? Le détail.
L'attention qu'ils donnent au pricing.
Oui, parce qu'en fait, effectivement, dans le produit, c'est logique. Tu es une société de location de meubles, tu dois marquer le nombre de trucs, 3 chaises, 4 chaises, 4 tables et tout ça. Donc, c'est logique parce que c'est du matériel.
Exactement.
Mais nous, on reprend cette logique au service. Il faut qu'on marque le nombre de vidéos que tu as dans cette campagne, etc. Tu vois, on le marque bien. Et puis, ce qui est super important aussi, si tu as une remise, c'est que tu l'affiches pour qu'on comprenne aussi l'effort commercial que tu as fait. Non.
Moi, ça évite que le gars des achats dise, au fait, t'as essayé d'avoir une remise.
Voilà. Non, parce que le pire, quand tu mets déjà ton montant remisé, c'est que c'est enregistré dans le système comme ça. Donc après, quand tu dis 2 ans, ça, je me suis fait avoir.
L'expérience prouve que tu t'es fait avoir.
Tu reviens, tu dis, et puis on veut te renouveler. Puis je dis, non, mais ça, c'était la remise pour la première année.
Ni.
Elle dit, ah non, mais je ne peux pas l'expliquer ça au service financier.
Sérieux?
Bah oui, c'est...
Aïe, aïe, aïe. Comme ça. Ah, tu vois, ça c'est super vrai. Et c'est un pouvoir que les gens, une importance que les gens négligent. Parce que je sais que nous, même dans la vente, on disait souvent aux vendeurs, si tu fais un produit que tu le discount, il faut le marquer le fait que ce soit discounté.
Ah ouais, ouais, ouais.
Ce que je veux dire, c'est que sans faire comme les escrocs, attention, il y en a certains qui mettent des discounts alors que ce n'est pas des discounts. Genre, ils augmentent le prix juste pour mettre le vrai prix. Ce que je dis souvent, c'est que des fois aussi, ça fait que tu testes l'élasticité des gens. Si tu as un produit, tu l'as mis à 100 euros, il ne se vend pas, mets-le à 90. Mets-le à 80, mets-le à 50, mets-le à 60, mais laisse bien que c'était à 100 euros.
Oui, après, il y a une question de crédibilité. C'est qu'à un moment donné, tu peux faire un effort, mais à un moment donné, il faut aussi réduire le scope. Quand la négociation est trop agressive, il faut optimiser ce que tu offres. Même si tu peux peut-être te le permettre, il y a une question de cohérence, de crédibilité, parce qu'on te teste. À tout moment, en fait.
Ah, c'est intéressant. Dans le B2B, tu dirais que chaque négociation de prix est
c'est un test parce que sur la prochaine négociation, on va également, en fait, partir...
De ce qui a été dit la dernière fois.
Et moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est que moi, j'ai aucun souci avec les négociations. Le seul truc qui est important pour moi, c'est qu'on soit d'accord sur la valeur de ce qu'on propose. Tu vois, sur la valeur. Maintenant, si tu veux négocier sur une remise, sur un effort, pour telle passe, ou telle raison, il n'y a pas de souci. Mais si c'est de dire que je ne pense pas que ça vaut ça, là, du coup, c'est plutôt là qu'on va plutôt se retirer.
Ouais.
Tu vois, parce que du coup, si on pense que ce n'est pas cette valeur-là...
Si ça ne vaut pas ce montant, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de la valeur du montant.
C'est ça. C'est et je le dis même aux personnes avec... je vais travailler, des consultants, des professeurs, je dis quel est ton tarif, il me donne son tarif, je dis ok, et je respecte ce tarif, je vais jamais dire mais pour qui tu te prends, c'est ce tarif là, je dis ok, ben ça va être soit pour le moment j'ai pas les moyens de travailler avec toi. Mais je garde ça en tête parce que d'ici peut-être 6 mois, 12 mois, 18 mois je vais travailler avec ta personne, ou alors j'ai les moyens mais est-ce qu'on peut s'entendre sur
quelque
ça
chose
est-ce
de
que
plus court.
Ou alors, est-ce que, voilà, plus court, ou alors, plus est-ce que je peux compenser avec, avec ça, tu vois, ou est-ce que j'aurais besoin juste de 3 jours, etc. Tu vois, mais ça va être ce genre de choses. Ou alors, tu vas faire un forfait, tu vas dire, je prends 3 mois, mais je prends global. Ou alors, si c'est sur les sujets ADICOM, je dis, je prends ça, mais par contre, je t'embarque aussi en voyage lors d'un
Ecom,
etc.
Voilà.
Donc, la personne vit aussi une expérience.
Ouais.
Tu vois ? Donc, c'est dans le respect, par contre, de la valeur que les gens donnent à leur travail. Tu vois ?
C'est il faut savoir négocier les prix sans négocier la valeur de la personne. C'est ça que tu veux.
Voilà. Ouais. Ça, c'est super important. Et il y a un autre truc que je voulais évoquer sur la... sur la valeur perçue. Parce que, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir une expérience très tôt. Je crois que j'étais étudiant et je faisais un job d'étudiant dans un opérateur téléphonique à Bordeaux. Donc, c'était Orange d'ailleurs, pas cité. C'était une boutique. Et le premier jour, avant que tu commences à vendre en boutique, on t'envoie en formation.
Ouais.
Et ça m'a toujours marqué. Et ça me marque encore aujourd'hui parce que ça fait longtemps et que je me souviens de cette formation. Parce qu'ils nous ont fait passer un message. Ils disent, les clients vont venir vous voir et vont vous dire que vous êtes plus cher que SFR et Bouygues.
Ils le savaient.
Mais on ne veut surtout pas que vous niez cette affirmation.
Voilà.
Tu vois, quand ils vous disent ça, vous allez maintenant leur expliquer
la valeur
qu'apporte Orange. Et donc, tu pars sur le réseau, le nombre de personnes, tu vois, et donc, tu pars sur la valeur, la perception de la valeur de ton produit. Et parce que la simplicité, tu vois, surtout quand tu démarres, c'est de te dire, ben oui, il faudrait que je diminue.
Il faut que ça soit moins cher.
Je peux pas être aussi haut. Mais parfois, il faut attaquer un marché en étant... voilà, avec de l'autorité, quoi. Tu vois, avec de l'autorité.
Il faut le justifier. Et... Enfin, là, ce que tu as dit, c'est qu'il faut faire l'exercice. C'est que moi, je dis souvent, et c'est ce qui, des fois, a manqué. Et c'est vrai qu'on en a parlé un peu avec Maureen dans le podcast Anka, où elle disait que des fois, les gens price, il n'y a pas de raison.
Ouais.
C'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux vendeurs, tu peux vendre plus cher que tout le monde.
Ouais.
Il faut juste que tu expliques pourquoi. Il faut que ce soit, par contre, il faut que, idéalement, le moins que tu as besoin de l'expliquer, le pourquoi c'est mieux, le plus de chances de vendre, même si tu es plus cher. Et normalement, c'est ça. Hein, et c'est ce que nous, on a pris comme positionnement maintenant. Dans le cas, on essaie vraiment de dire, on ne va pas pouvoir accompagner tous les entrepreneurs qui veulent exporter. Ouais. Mais si tu es parmi les meilleurs, on sait que nous, en tout cas, là, il n'y aura personne d'autre qui va pouvoir t'accompagner sur autant de trucs.
Ouais.
Tu vois, et c'est un choix.
C'est comme l'incubation, quoi.
Mais voilà,
c'est comme le projet que vous faites là, pour la boutique aux États-Unis.
Exactement, qu'on ne peut pas aux États-Unis, là, avec l'USAID, bon, qui est compromis avec ma jambe, là, effectivement. Ça, c'est un autre détail qui va être...
Les gens vont, l'équipe peut aller sans toi.
Non, mais en fait, c'est compliqué parce que forcément, il y a beaucoup de choses là-bas où il faut de l'expérience avant à faire un pop-up. Et malheureusement, avec ma jambe, je ne peux pas trop bouger. Alors qu'un pop-up, c'est essentiellement bouger. Donc, à part moi, dans la boîte, en fait, je suis celui qui a fait le plus de pop-up avec Kader. Mais Kader, on n'a pas fait à l'étranger comme moi. Lui, il en a fait beaucoup en France. Moi, j'en ai fait beaucoup. Donc, on a fait au Ghana, on a fait aux États-Unis, on a fait ailleurs. Donc, c'est une question de gestion avec les vendeurs. Mais c'est parce qu'en même temps, Kader doit gérer les équipes. Donc, c'est toujours le même sujet de... La vérité, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Donc, là, tu vois, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous sont encore là dans le podcast. Vraiment, là... ceux qui sont encore là, qui nous écoutent, sachez que je souffre. Vraiment, j'ai mal, là, à l'heure actuelle, vraiment. Donc...
Donc, si vous pouvez vous abonner.
Merci, c'est ce que j'allais dire. Merci.
Ça peut diminuer la douleur.
Ça peut diminuer ma douleur. J'aimerais vraiment que cet épisode soit la preuve que vous avez un cœur. Franchement.
Et merci pour les yakos.
Ouais. Sérieux, ouais. Les yakos, j'aime bien, mais j'aime encore mieux les abonnements. Franchement. Parce que vraiment, non, mais ça montre à quel point c'est important pour nous. Parce que ce sujet-là, en plus, le pricing, fait longtemps qu'on veut le donner.
Ouais.
Là, même si j'ai mal, tu sais, tout à l'heure, Kaï, tu m'as dit, mais ça va aller et tout. Je t'ai dit, non. Franchement, tourner le podcast est un des rares trucs qui me fait plaisir. Même quand je déguste là comme ça. Mais pour le coup, j'aimerais vraiment que les gens, de ce que tu viens de dire, tu vois, quand tu as raconté ce que Orange t'a pris comme formation, j'aimerais tellement que d'autres employés se disent à partir de là, demain, je vais voir mon boss et lui demander pourquoi on presse, comment on presse. Enfin, ce serait mon rêve. En tout cas, quand on fait ce podcast, moi, ce que j'espère, et c'est ce qui va faire...
Quelle est la logique de prix?
Parce que c'est ce qui va faire que... Ok, on vient de passer une bonne heure à causer ensemble. Les gens nous ont écoutés. Mais qu'est-ce qui va demain, à la fin de ce podcast, peut avancer leur carrière, peut faire vendre plus leur boîte ou leur permettre, au contraire, comme l'a décrit Edith Brou dans son podcast, peut-être qu'en les écoutant aujourd'hui, l'entrepreneur va se dire, en fait, je peux pricer plus cher et avoir moins de clients.
En comprenant la logique de prix de votre entreprise, vous comprendrez énormément de choses. Vous serez dans la tête du dirigeant, vous serez dans la tête de votre manager, vous comprendrez tout.
Oui.
Et vous ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de comprendre la logique.
Non, non, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un... pour moi, c'est limite un litmus test intéressant, comme on dit. Si quelqu'un, un de vos managers, n'arrive pas à vous l'expliquer, c'est que vous ne parlez pas à des gens assez haut. Et c'est, par contre, l'une des meilleures raisons de parler à quelqu'un de plus haut. Si votre manager immédiat n'arrive pas à répondre, vous pouvez aller au gars au-dessus en disant à votre manager, est-ce qu'on peut aller lui poser la question? Ça se trouve, lui-même, le manager, il a peut-être pas poser la question où il ne sait plus, où il ne sait plus. Mmh. Et c'est des questions, je ne connais aucun dirigeant à qui on vient poser cette question qui va dire « Oh, ça me fait chier. »
Ouais, ouais, bah non.
Mais non, c'est ta vie de tous les jours.
Ouais, c'est clair, c'est
clair. Et en tant qu'entrepreneur, ceux qui nous écoutent, vraiment, il y a une question aussi de la valeur que tu donnes. Et c'est comme je dis souvent dans le temps, il faut réévaluer. Il faut te dire, est-ce qu'aujourd'hui, je n'apporte pas tellement de valeur? Parce que tu sais, ça me rappelle la punchline là, sur Anthony Joshua. Après qu'il ait battu Ngannou, les gens disent qu'il a gagné je ne sais pas combien de millions par minute.
Ouais.
En disant qu'il a gagné en même pas 3 minutes.
Sans
minutes.
Compter les années d'entraînement.
Les 10 ans d'avant. Et ce que j'adore, c'est qu'il n'a pas gagné 10 millions par minute. Mm. Il a gagné 10 millions pour les 10 ans d'avant où il s'est entraîné. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, parfois, ne se remettent pas à plein en fait. C'est comme à valeur. Et en fait, peut-être que tes prix doivent changer. Tu auras peut-être moins de clients, mais tu auras probablement des meilleurs clients.
C'est ça.
Et c'est pour ça que je dis que le pricing, bon là, on l'a couvert vraiment sur l'aspect un peu technique, un peu se positionner, ouais. Mais c'est une discussion ouverte que je pense qu'il faut entretenir avec ses clients tout le temps.
C'est ça.
Il ne faut pas en avoir peur, en fait. Il ne faut même pas…
Et même si vous avez dans votre entourage des amis qui soient entrepreneurs ou employés, demandez-leur, challengez-leur. Mais dans ton entreprise, c'est quoi la logique de prix? Essayez d'avoir ce niveau de conversation et vous serez vraiment surpris et enrichi par ce genre de choses. Ou alors des boîtes que vous admirez depuis très longtemps pour telle ou telle raison, parce que vous aimez manger là-bas ou parce que vous aimez leur marketing. Essayez d'analyser c'est quoi leur politique de prix finalement.
Exactement.
C'est super, super intéressant et ça donne en culture business un niveau assez élevé. Je voulais te demander, là, parce que je ne sais pas si ça peut faire l'objet d'un épisode entier, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du coup sous le prisme des prix de différents business models.
Oui.
Ok, les commissions, les marketplaces, le service. On a parlé un peu de l'abonnement et je me demande en fait s'il n'y a pas
un épisode
par business model. Bah, peut-être à vous de nous dire.
Dites-nous en bas si vous avez un épisode spécial business.
Parce que
business
je me suis
model.
Rendu compte un truc que je n'ai pas évoqué, moi qui ai testé beaucoup de business models. Hein? C'est que pour chaque business model testé, il faut faire une sacrée étude du business model.
Mais c'est
parce
super intéressant.
Il paraît toujours, tu vois ce que tu disais, c'est que les boîtes qui font ça tellement bien, ça paraît simple de l'extérieur.
Exactement, mais dedans,
donc, tu
là,
dis,
derrière.
Ah ouais, abonnement, bah. Je fais abonnement, tu vois, c'est comme les box.
On a fait les box, on a laissé ça vite.
Tout le monde a fait les box. Ah ouais, après tu te rends compte, tu dois aller à la poste.
C'est
compliqué. Et moi, j'en suis à un stade où, tu vois, là, sur Adicom, on fait une refonte
de
notre business model.
Ouais.
Ben, je fais appel à une consultante
pour
évaluer. Construire l'offre.
Ouais.
Donc, Angèle, si tu as écouté jusqu'ici.
Sache qu'on parle de toi.
Voilà. Et en fait, ça a un double avantage. C'est que tu as une personne qui a étudié différents business models et puis toi-même, tu apprends. Mm. Mais voilà, il ne faut pas se mettre trop de pression si on ne maîtrise pas un business model.
Ouais, ouais.
Sachez que ça prend du temps à maîtriser un business model.
C'est important, je pense que c'est un épisode à part parce que je pense que, pour le coup, je ne veux pas teaser, mais... L'une des personnes qui m'a appris le plus là-dessus, c'est Oussama.
Mmh.
Oussama Amar, hein, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que c'est une discussion large parce que le prix n'est que 1/7 d'un business model.
Mmh.
Là, on a parlé vraiment du prix en disant voici ce qu'on peut faire avec un prix. Comment tu l'augmentes, jusqu'à où tu le baisses.
On pourra faire le canva, le fameux business
model. Voilà, le canva business model. Mais vraiment, pour le coup, je pense que les gens doivent vraiment se comprendre. Là, j'ai voulu continuer sur le prix parce que c'est une question qu'on nous a posée beaucoup.
Mmh.
Et je pense que c'est par là où les gens commencent. Mais en fait, c'est là où tu dois amener la discussion.
Mmh.
Et après, la discussion doit aller sur tout le business model.
Ouais.
Mais c'est vraiment le point saillant. Et c'est pour ça que là, on a dit comment tu peux augmenter. Tu peux augmenter en prenant différents segments, différents clients, différents pays, différents moments. Mais un autre truc qu'il faut vraiment se garder, c'est le prix doit être quelque chose dont tu dois revisiter. En tout cas, donc, je pense que oui, un épisode business model, c'est pas mauvais. Franchement, dites-nous en bas si vous en voulez un. Et si vous avez déjà des questions qui vous viennent à l'esprit sur tout ce qu'on vient de dire, dites-le.
Carrément.
Mais je pense que sur le prix, on a vraiment... bien couvert, je pense qu'il faut que les gens se rendent compte que toi, par exemple, dans tout ce que tu as appris, je pense, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer une agence aujourd'hui, qui est le plus important sur son prix? Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus important en termes de pricing? Est-ce que c'est
Moi, c'est vraiment, vraiment, il faut faire l'effort. Hein. C'est très long, mais il faut connaître le coût de chaque collaborateur.
Ah.
Mais le vrai coût.
Ouais. Chargé, complet. Voilà.
Complet, complet de chaque collaborateur. Il faut vraiment, vraiment maîtriser ses charges. Et le deuxième point, c'est qu'il faut réussir, et c'est également très difficile, à traquer le temps
que les gens passent.
Que les gens passent sur les projets. Beaucoup, beaucoup d'agences vont te vendre une campagne de 2 mois à un client et 4 mois après, ils sont encore
sur la
campagne.
Waouh.
La campagne réussit, il n'y a pas de souci, mais c'est une perte.
Ouais, c'est une perte.
En fait, c'est une perte parce que vous avez vendu 2 mois pour un travail de 4 mois. Donc, quand c'est mal vendu, ça fait mal. Et dans des structures comme... pour moi, qui sont les références, hein, les Deloitte, les Accenture, qui arrivent à faire des centaines de millions en vendant du service.
Ouais, pur.
Ce que vous verrez, c'est que tu as été dans ce genre de groupe, c'est qu'ils en arrivent même à se facturer entre eux, à l'intérieur.
Ouais,
c'est-à-dire, ton collègue, tu lui demandes
son
un
code
service.
OTP. Oui, c'est ton code OTP, c'est quoi? Ouais. Moi, c'était ça. Hein, tu viens me voir en mode, j'ai besoin que tu me refasses un PPT. C'est sur quel code OTP, s'il te plaît?
Voilà.
Je peux charger où? Non, c'est parce que ton temps doit être chargé, t'es 8 heures là. Tu
time
les charges.
Is money, time is money.
Voilà. Après, c'est très vrai ce que tu dis parce que je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est quand même fort que vous ayez, après toutes ces années, t'es encore une agence profitable parce que je peux te dire que c'est pas commun. Entreprise là dehors, là, les gens n'arrivent pas à être profitables. Donc c'est un truc que toi t'as fait et je pense que les gens se rendent pas compte. On voit tout ce que tu sais faire commercialement, tout ce que tu sais faire en marketing, mais ils voient pas tout ce travail derrière que t'as dû faire.
Non, mais je t'ai appelé il y a pas longtemps pour parler du tracking des efforts.
Oui c'est vrai.
mais c'est ça le travail, c'est-à-dire que en gros il suffit pas de dire comme on dit sur Instagram. Visualiser un objectif, un taux de rentabilité,
et puis c'est parti,
travailler dur.
Voilà.
En fait, chaque semaine, chaque jour, chaque mois, il faut traquer si vous êtes dans la bonne direction. Et donc, ce qui vient de manière totalement logique quand on a cette réflexion-là, c'est qu'on construit les meilleurs process. C'est à ce moment-là qu'on construit les meilleurs process.
Exactement.
Parce que le problème, et ça, on passe tous par là, c'est que parfois, on est super rigoureux et on crée des process, mais sans comprendre vraiment où est-ce qu'on veut aller.
Ouais, c'est sûr.
Parfois, il faut vraiment comprendre où est-ce qu'on veut aller et construire des process. Donc, comment je fais pour que quand je vends une campagne de 2 mois, pour qu'elle ne déborde pas? Quel process je peux mettre en place? Et d'ailleurs, même à l'avance, comment est-ce que je fais à partir du brief du client? Quels sont les éléments qui me permettent d'estimer la durée que je vais passer là-dessus?
C'est dur, hein. Tu me demandes de faire ça là, même moi, je serai en panique. Je me dis, putain, mais je connais rien. Enfin,
c'est pour ça que je vais te dire, aujourd'hui, le responsable financier chez nous m'a demandé de. Je valide tous les pricing. C'est-à-dire, il n'y a pas un que je ne valide pas.
Que tu ne vois pas, que tu dis, OK, ça a l'air cohérent.
Et jusqu'à aujourd'hui, même avec les personnes qui sont les plus pointues sur les pricing, je vais trouver des erreurs. C'est-à-dire que avec l'expérience, par exemple, quand je vois un, je vois un truc, l'ami va, par exemple, du 2 mai au 1er juillet, avec l'expérience... Pardon, je veux dire du 1er février au 31 juillet, je sais que au 1er juillet, je sais qu'il se dit qu'il a mis 5 mois. Tu vois, parce qu'il a mis 1er juillet. Tu vois, de février 2 à juillet 7, alors que ce n'est pas 31 juillet.
Ah, c'est 1er juillet.
1er juillet, tu vois.
Donc c'est 4 mois.
Et donc je dis, la campagne, c'est bien 4 mois. Il dit non, 5. Il dit,
vous mettez 31 juillet.
Mais tu vois, en fait, le truc,
la différence, c'est quand même 20%. Tu vois, c'est 20% du montant qui peut sauter sur une erreur de 3 chiffres.
C'est
d'un chiffre, en l'occurrence, premier 31.
Et donc, sur une campagne, tu vas avoir chef de projet parfois. Moi, je considère que tu ne peux pas faire un bon boulot avec moins de 50% de ton temps. Tu vois, et c'est soit 50, soit 75, soit 100.
Ah oui, quand même.
Tu vois.
Ouais, pour pouvoir bien suivre.
100%, bon, c'est longue durée et tout ça. Mais parfois, je vois du 30 et je sais ce qui s'est passé. C'est qu'en gros, le client a râlé.
A négocié.
Donc, il essaie de rentrer dedans. Et donc là, je mets la personne face à responsabilité. Je dis,
Tu vois, quand tu mets 30%, ça veut dire que tu dis à une ressource qu'il va travailler sur 3 projets. Tu vois. Parce qu'il faut qu'il compense. Il faut qu'il
aille chercher les 100% ailleurs. Tu vois.
Et donc, je dis, ah ouais, tu vois. Et donc, on a discussion et tout le temps. Et maintenant, ouais, il m'a demandé de tout contrôler.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est difficile pour les gens d'avoir ce niveau. Et c'est ça aussi le pouvoir de l'entrepreneur, c'est que tu as une vision d'ensemble.
Oui, mais j'essaye en tout cas, d'avoir maintenant de mettre en place. C'est pour ça que je dis que quand tu sais où tu vas, tu crées les bons process. C'est que maintenant, on crée des outils pour avoir cette vision.
Oui.
Mais la vision de ce qui est important finalement.
Ouais, parce que même toi, tu ne l'avais pas au début forcément.
Ouais, non, tu ne l'avais pas au début. Et tu te fais des. Enfin, tu as des illusions. Quand tu vois, tu dis, mais cette personne-là, elle n'est pas facturée depuis 2 mois. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Et tu vas discuter avec les équipes et dire, mais on pensait qu'elle était facturée sur ce contrat.
Oui, on ne savait pas qu'elle était là et disponible.
Tu vois. Ah, et donc, non, mais en fait, les gens ne sont pas disponibles parce qu'ils sont toujours en train de faire des choses. Donc, tu ne le vois pas.
Pas. Ouais, le problème, c'est de le voir. Ouais,
et donc, ce n'est pas contre le collaborateur.
Non, non, non.
Parce c'est que pas, lui n'est même pas… Ce n'est pas son travail.
Ce n'est pas son travail de… Et c'est ce qui est terrible, c'est que j'avoue, oui, toi, à ton niveau, c'est encore plus dur parce que nous, encore en cabinet de conseil, vu comment on nous paye, ouais, dès le début, on te fait comprendre c'est ta responsabilité.
Oui, oui, mais c'est ce que. Oui, c'est ce
mais
qu'on
c'est dur
mais
à
c'est
faire.
La culture qu'on.
C'est la culture qu'on nous met. Mais c'est pas facile. Hein. Mm. Moi, je me souviens qu'en cabinet d'audit, c'était vraiment, tu n'es pas facturé. Si tu fais 1 ou 2 mois, quand on appelle ça sur le bench, ouais, sur le banc,
ouais,
c'est chaud, hein,
ouais.
Ton avenir est en danger.
Moi, quand j'étais consultant chez, en achat à Paris, je me souviens quand on était entre deux missions.
Ouais.
Hey, il nous est taffé, hein.
Ah non, mon ami, tu fais des appels d'offres.
Ouais, des appels d'offres.
Voilà.
Tu fais des articles que lui-même signait après.
Après, voilà. Shadow writing, voilà. Non, mais parce que à un moment, il faut amortir. Et c'est intéressant, je pense que les gens se posent cette question-là parce que ça rejoint la discussion plus globale de les boîtes faire de l'argent. Hmm. Donc, quand tu fais une société et même quand tu es dans une société, si tu ne sais pas comment se fait l'argent, tu ne sais pas vraiment à quoi tu sers.
Je crois qu'on peut finir sur cette phrase.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, sont
dans des boîtes. Mic drop.
Voilà, je vais aller prendre mes antidouleurs, franchement.
Ouais,
franchement.
Bah, ouais, c'est surtout pour ça qu'il faut qu'on arrête. Donc, un petit mot de la fin.
Ah, mot de la fin sur le pricing. Je sais pas. Moi, je pense que j'ai bien aimé quand tu as dit que c'est une conversation.
Une conversation?
Ouais, le pricing, c'est une conversation pour moi que tu as avec
mais
le marché.
On disait plutôt que c'était un art.
Ouais, j'aime bien que c'est l'art, ouais, que c'est un art. Franchement, je trouve que ouais, c'est un art. Et c'est vraiment. C'est un truc. En tout cas, j'espère que ça va créer des conversations aussi. C'est que les gens aient vraiment.
Développer des conversations autour de.
Et que, parce que c'est,
faites-en c'est un sujet de conversation. Ouais.
Le pricing, c'est passionnant. Parce que. Alors, n'en faites pas un sujet de conversation comme sur les réseaux où on dit ah, c'est parce que c'est pas sa cible. Ça m'énerve, ça. Les gens qui disent juste ah, c'est trop cher, donc on n'est pas la cible. Ça, c'est facile. J'aimerais vraiment que les gens se disent ok, on n'est pas la cible. La question, c'est qui est la cible?
C'est ça. Tout commence là.
Qui ?
Et rappelle-moi quand on fera l'épisode business model, parce que je me rends compte qu'il y a aussi le cas des appels d'offres dans lequel nous on est.
Ah ouais ?
Ben, en fait, pricer quand tu es dans un appel d'offres, c'est très difficile parce que du coup, tu es face à des concurrents et tu ressens une pression.
Différente de quand tu es juste en one-one.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est limite un business model différent, tu diras. C'est quand vous êtes en appel d'offres, vous avez des pricing des fois différents.
Ouais, parce que tu dois vraiment être, tu dois vraiment accrocher quoi. Mais après, bon, il y a vraiment différentes choses à dire là-dessus. Ce serait un peu trop long d'aller là-dessus, mais bon, retenez que il faut être bon sur la qualité, sur la valeur perçue.
Ouais.
Parce que ça viendra souvent en premier. Et si c'est pas le cas, c'est-à-dire si votre client voit comme élément numéro un
le prix,
mais c'est que, enfin, comment dire, c'est pas que c'est une mauvaise chose parce que ça peut être un marché où le prix est fondamental.
Ouais.
Mais en gros, si pour vous c'est la valeur que vous apportez qui est importante, qui est prioritaire et que vous êtes sûr de votre valeur, si vous avez en face un client dont le critère numéro un est le prix, en général, il faut limiter la conversation.
Ça va être dur. Ouais, tu peux pas le faire.
Et tu vois, il n'y a pas de guerre. Hein,
ouais.
Tout le monde a le droit de.
Tout le monde, oui. Enfin, a ses priorités pour un moment, mais il faut juste s'aligner sur les priorités des gens. Des fois, un client n'est pas forcément le bon client à ce moment.
C'est ça. Mais ne devenez pas une commodité. Apportez de la valeur.
Amen. Tu vois, c'est pas mal ça, tu vois.
Valeur, allez.
Valeur. Allez. Pricing, price, valeur, les voilà, gens.
Price, valeur. Et poser des questions. Mm-hmm. Parce qu'on se disait, on n'a pas assez de questions.
Ouais, on n'a pas assez de questions. On va peut-être essayer de répondre plus aux commentaires.
Les gens du quartier, de la tribe, on en aura.
Beaucoup, ouais.
On en aura beaucoup, beaucoup, parce que c'est un sujet qu'on promet dans la tribe depuis un moment. Et puis, pour tous ceux qui veulent rejoindre la tribe, il y a toujours le lien. Il y a toujours le lien.
Rejoignez.
C'est le programme est très, très, très chargé. Très, très chargé, beaucoup d'activités. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, quand je croise, qui hésitent. N'hésitez pas. On précise que c'est 50 euros l'année. Parce que chaque fois que je croise des gens...
150 euros.
150. Oui, j'ai dit 50.
T'as dit 50 euros.
150.
150 euros. 100 000 francs CFA.
Pour être plus l'année, parce que chaque fois qu'on croise des gens...
Hey, dis ça, toi.
Il pense que c'est par mois.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas demandé quand ils me disent ça. Les gens qui disent qu'ils hésitent, j'ai dit, mais t'attends quoi en fait? Juste, qu'est-ce qui... Parce qu'ils n'auront pas plus d'infos. En fait, il n'y a pas plus de raison qui va venir pour expliquer de rejoindre. Si t'as envie de le faire, fais-le. Si t'as pas l'argent, il n'y a pas de problème, on t'attend. Ouais. Mais quand tu es prêt, fais-le. Donc 150 euros l'année, ça veut dire que pour parler un peu
là,
en pricing,
on enlève de la friction.
Franchement, il faut arrêter les gars. ça veut dire que vous payez un peu plus de 10 euros par mois. Donc je pense que c'est ça.
En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. À ciao.
À bientôt.